7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 février. J'espère que vous réveillez tranquillement. Et l'actualité, avec ces images qui inquiètent, qui font réfléchir, des vitrines Bagelstein taguées, le portrait de Simone Veil lacéré par des croix gammées, l'arbre planté à la mémoire d'Ilan Halimi scié en deux, un autre endommagé. On va essayer de comprendre ce qui se passe en France en 2019. On va essayer de décrypter ce qui se passe dans notre pays. Et à 7h45, je reçois l'analyse, je reçois une femme, rabbin, avec elle, je vais écouter son analyse concernant l'antisémitisme. L'antisémitisme est-il de retour? Elle s'appelle Delphine Horwiller. Comment explique-t-elle cette recrudescence? Je lui poserai la question. Nouvelle démission dans le clan Macron, Ismaël Emelien, le conseiller spécial du président, a annoncé hier soir son départ de l'Élysée. Un énième coup dur pour l'exécutif. Récit et analyse du service politique d'Europe 1 à suivre dans nos éditions. Et puis c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain qui affronte à 21h le légendaire Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. Un choc très attendu. Le PSG peut-il réaliser l'exploit? C'est la question, elle est toute simple. Je la poserai à notre tout nouveau consultant Alain Roche à 7h20 dans Europe 1 va plus loin. Voilà pour le programme, on est ensemble jusqu'à 9h. De l'info, de la réflexion et de la bonne humeur. Bon réveil à tous, vous écoutez Europe 1.
Et merci de nous avoir choisis pour vous accompagner en ce mardi 12 février. Il est 7h, bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Bonjour chère Hélène Zelani.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Et à la une de l'actualité ce matin.
La mémoire salie, abîmée, bafouée, série d'actes antisémites ces derniers jours. Et ce chiffre dévoilé hier soir par Christophe Castaner, des actes en hausse de 74% en 2018. Il était l'homme qui murmurait à l'oreille d'Emmanuel Macron. Ismaël Emelien annonce sa démission. Et puis le PSG privé de ses stars arrivera-t-il à faire le poids face à Manchester United? Coup d'envoi de la rencontre des 8e de finale de la Ligue des Champions à 21h et ce sera à suivre en direct sur Europe 1.
Europe 1.
C'est donc le chiffre qu'on va retenir ce matin. 74%. Les actes antisémites ont explosé en France l'an dernier, sinistre constat. Ce chiffre, il a été dévoilé hier soir par Christophe Castaner à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, là même où le jeune juif Ilan Halimi avait été retrouvé agonisant. Les deux arbres plantés à sa mémoire ont été sciés. Dernier épisode en date d'une impressionnante série d'actes antisémites, Aude Vernuccio.
Oui, au total, on passe de 311 actes antisémites à 541 l'an dernier. Tags, insultes, agressions. On se souvient d'ailleurs du meurtre de Mireille Knoll en mars 2018, une octogénaire juive égorgée dans son appartement. Mais ces derniers jours, le phénomène s'est accéléré. Un portrait de Simone Veil barré d'une croix gammée sur des boîtes aux lettres dans le 13e arrondissement. Puis ce restaurant Bagelstein, tagué du mot juif en allemand. Et enfin hier, les deux arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi, tué en 2006, sciés. Le ministre de l'Intérieur sur place promet des sanctions.
En attaquant la mémoire de Simone Veil, la mémoire d'Ilan Halimi, c'est la République que l'on attaque. Je le dis avec la plus grande fermeté, nous ne laisserons rien passer. J'avais besoin de dire au nom du gouvernement, au nom du président de la République, au nom de la France, que nous pleurons la mémoire d'Ilan Halimi.
Dernière mesure prise en novembre dernier, le Premier ministre annonçait le renforcement de la traque des propos haineux sur les réseaux sociaux. Un plan insuffisant qui n'arrivera pas à résorber ce cancer qui gangrène notre société, déclarait alors le représentant du CRIF en réponse à Édouard Philippe.
Aude Vernuccio.
On y reviendra évidemment à 7h45 avec mon invité, la femme rabbin Delphine Horwiller. Politique, Ismaël Emelien, le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, quitte le navire.
Oui, il l'annonce dans l'hebdomadaire Le Point. Ismaël Emelien, un homme de l'ombre qui a imaginé la stratégie d'En Marche pour la présidentielle. Son nom revient plusieurs fois dans l'enquête sur l'affaire Benalla, mais il affirme qu'il veut avant tout retrouver sa liberté de parole avec la prochaine publication d'un livre, son portrait, Jean-Rémy Baudeau.
C'est à la fois le personnage le plus secret et le plus influent de l'Élysée. Ismaël Emelien, stratège du président Macron, un conseiller spécial dont le titre, aussi vaste que vague, ne suffit pas à illustrer la proximité entre les deux hommes. Emelien, c'est l'homme du président, discret, insaisissable. Il arpente les couloirs de l'Élysée, téléphone vissé à l'oreille. Il est de toutes les réunions. Ce fils d'un ingénieur et d'une infirmière, passé par Sciences Po, est celui qui y apporte les conseils les plus tranchés, les idées les plus clivantes. Certains de ses slogans en font mouche, « Make our planet great again », d'autres moins, premier de cordée, mais il est toujours écouté par Emmanuel Macron. Entre la confiance et nous à Bercy, Emelien sera ensuite l'un des premiers à développer En Marche, du ministère à la campagne jusqu'à l'Élysée. Mais ce jeune homme, avide de sondages et d'analyses d'universités américaines, n'a manifestement pas su voir la montée de la colère des Gilets jaunes. Son départ marque le début de l'acte 2 du quinquennat voulu par le président.
Jean-Rémy Baudeau. Et pendant ce temps-là, les membres du gouvernement continuent à assister à des débats organisés un peu partout en France. C'était le cas pour Marlène Schiappa hier soir à Sainte-Livrade, dans Lot-et-Garonne. La secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes venait aborder le thème de la condition de la femme dans ce département rural. Pas évident, alors que d'autres participants voulaient plutôt parler pouvoir d'achat. Écoutez le reportage de Benjamin Péter.
C'est par trois témoignages sur la situation des familles monoparentales que s'est ouvert le débat.
La charge mentale de la femme active, divorcée, surbookée, fatiguée, je suis sûre, certaines d'entre vous connaissent.
Mais dès la deuxième question du public, un gilet jaune excédé s'empare du micro.
Vous êtes complètement à côté de la plaque. Je suis pas venu non plus à une réunion du planning familial. Je suis venu pour parler des problèmes qu'on rencontre tous au quotidien.
L'ambiance est tendue et la réponse de Marlène Schiappa cinglante.
Je trouve que ça se fait pas ce que vous venez de dire. Parce que le fait qu'il y ait des femmes qui vivent seules, qui n'aient pas de pension alimentaire, qui soient dénigrées par la société, et que le jour où elles ont le courage d'en parler, il y a quelqu'un pour dire « bah, je suis pas venue au planning familial », bah non, je suis pas d'accord avec ça, je trouve ça méprisant.
Au final, les intervenants évoquent la condition des femmes, mais aussi les retraites, la fiscalité, la PMA, l'éducation. La ministre prend des notes, répond en une fois, sans se dérober, avant de quitter la salle après 1h15 de débat. Christophe, qui arbore son gilet jaune, reste un peu sur sa faim.
Les réponses, malheureusement, je ne pense pas qu'on les ait obtenues. Tout courtoise qu'elle a pu être, je pense qu'elle aurait pu donner un peu plus de son temps à notre égard. On ne veut pas être les oubliés du peuple, on veut surtout être entendus.
Et comme lui, la plupart sont repartis, un peu amers, de ne pas avoir pu échanger davantage. À Sainte-Livrade-sur-Lot, Benjamin Péter, Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal avec Hélène Zélani et cette disparition plutôt intrigante, un convoyeur de fonds et plus de 3 millions d'euros. A tout de suite sur Europe 1. Bon réveil à tous.
Il est 7h07, votre matinale info, Nikos Aliagas.
La suite du journal avec Hélène Zélani et le mystère qui reste entier ce matin. Après la disparition d'un convoyeur de fonds, ça s'est passé à Aubervilliers.
Oui, personne n'avait oublié l'affaire Tony Musulin, du nom de ce convoyeur qui s'était emparé de 11 millions d'euros à Lyon. Forcément, cette nouvelle affaire nous y fait penser. Aucune nouvelle du convoyeur, ni des 3 millions d'euros qu'il transportait. Écoutez le récit de Pierre de Cossette.
Un fourgon, toutes portes ouvertes, dans une petite rue d'Aubervilliers, et à côté, une place de stationnement inoccupée. Hier, les enquêteurs de la BRB ne pouvaient s'empêcher de se dire que se trouvait à cette place, quelques heures plus tôt, la voiture dans laquelle ont été transvasés les sacs de billets. 3 100 000 euros, en volume, pas loin d'un caddie rempli de coupures, nous disait hier un connaisseur du dossier. Tout s'est fait en quelques minutes, vers 6 heures du matin, pendant que ses deux collègues descendent du fourgon pour aller récupérer de l'argent dans une agence de la Western Union. Notre convoyeur reste au volant, moteur tournant. C'est la procédure, question de sécurité. Ce qu'il est moins, c'est de disparaître et de laisser ses deux camarades ahuris, constatant en ressortant de l'agence que le fourgon s'est volatilisé. Il n'était pas loin, à 300 mètres de là, dans une rue parallèle. Depuis 24 heures maintenant, la brigade de répression du banditisme tente de savoir si le convoyeur de 28 ans, semble-t-il bien vu de sa hiérarchie, a fait le coup tout seul, inspiré par Tony Musulin, ou s'il a pu être mis sous pression, voire menacé pour passer à l'action. Hier, les premières investigations laissaient penser qu'il n'avait pas été braqué pendant que ses collègues étaient sortis du fourgon.
Voilà les informations de Pierre de Cossette.
Et le projet de loi de Jean-Michel Blanquer sur l'école de la confiance est en discussion depuis hier à l'Assemblée nationale.
L'une des mesures majeures, c'est l'école obligatoire, non plus à 6 ans, mais dès 3 ans. Une formation qui doit se prolonger jusqu'aux 18 ans de l'enfant, Virginie Salmen.
Ça ne veut pas dire école obligatoire jusqu'à 18 ans, mais il faudra jusqu'à sa majorité avoir une occupation. Formation, apprentissage, service civique ou école de la deuxième chance. L'idée, c'est qu'on n'ait plus ces quelques centaines de milliers de mineurs dans la nature. Ce principe, il vaut aussi pour le début de la vie scolaire, pour les tout-petits. À partir de la rentrée prochaine, les enfants devront obligatoirement être inscrits à l'école maternelle ou suivre le programme scolaire à la maison dès l'âge de 3 ans et non plus 6 ans. C'est déjà le cas d'environ 98% des élèves. La France est même championne de l'OCDE en matière de scolarisation en maternelle. Alors, y a-t-il un sujet, me direz-vous ? Oui, répond le ministre Jean-Michel Blanquer. D'abord parce que ces 2% représentent 26 000 élèves et que ça n'est pas négligeable. Et puis pour tous les autres, c'est un signal fort sur l'assiduité. La maternelle, c'est obligatoire. On y développe le langage au moment où la plasticité du cerveau est la meilleure. Si on attend le CP, c'est presque déjà trop tard. 80% des futurs décrocheurs ont déjà des difficultés au début de l'école primaire.
Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. Et la nuit dernière, les députés ont adopté un amendement LR d'Éric Ciotti. Drapeau tricolore et drapeau européen seront obligatoires dans les salles de classe. Les paroles du refrain de la Marseillaise devront également être affichées.
Football, c'est l'événement à ne pas manquer sur Europe 1, soirée spéciale des 20h pour la rencontre Manchester United Paris Saint-Germain.
Oui, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Les fans du PSG inquiètent, tentent quand même de garder confiance.
Manchester, c'est pas non plus la meilleure équipe d'Angleterre, donc même s'ils sont en forme, a priori, actuellement actuellement, je pense que le PSG, il a 95% de chances de gagner.
Moi, je pense qu'ils vont perdre. Je pense que Pogba, il va faire la différence.
Je pense qu'avec la blessure de Cavani et de Neymar, ça va être dur. Mais après, Mbappé, il peut faire la différence.
Voilà, des supporters du PSG au micro Europe 1 de Cyril de la Morinerie. Ne manquez donc pas la soirée spéciale de 20h à 23h15 sur Europe 1 avec la rencontre, bien sûr, en direct.
Et à 7h20, dans quelques minutes, Alain Roche sera avec nous, notre nouveau consultant, pour parler de cette rencontre.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h11, on retrouve Martin Fenneau sur le terrain, Nico.
Et après le journal d'Hélène Zélani, vous êtes où ce matin, Martin? Oula. Bonjour,
oui, Jean. Sans les embruns.
Bonjour Nikos. Alors écoutez, là je respire un air marin ce matin. Je suis sur le pont d'un bateau des sauveteurs en mer, une vedette rouge amarrée à Port-en-Bessin dans le Calvados. Ah. Parce qu'ici, l'équipage, Nikos, lance un SOS, un appel aux dons, pour acheter un nouveau bateau. Celui-là est trop petit et vraiment ça saute aux yeux ici dans le port quand on le voit à côté d'imposants navires de pêche. Il a même failli chavirer il y a quelques mois en pleine tempête pendant une opération de remorquage d'un chalutier en détresse.
Vous imaginez un petit bateau comme on a là, qui fait 11 tonnes, pour remorquer un bateau de pêche qui dépassait les 150 tonnes. La mer était assez formée, il y avait des creux de 4 mètres. Quand vous êtes en passerelle et que vous voyez la vague devant vous, qui est un véritable mur, là vous vous rendez compte que vous êtes tout petit. Quand il y a un bateau qui se retrouve dans le creux et l'autre qui est en haut, eh bien, ça arrache tout sur le pont. Depuis 92, j'avais jamais vécu ça. On sentait bien que les choses ne se passaient pas comme on aurait voulu qu'elles se passent. On s'est retrouvé en difficulté avec les amarres engagées dans les deux hélices. On a eu un blessé grave quand même à bord. Quatre côtes cassées, une rupture d'un tendon de l'avant-bras, une plaie importante au tibia. On ne veut pas revivre cette situation-là. Et oui, on a eu peur.
On a compris les raisons pour lesquelles, effectivement, ils font un appel aux dons pour financer leur nouveau bateau de sauvetage.
Exactement, ils ont besoin de faire un appel aux dons parce que ces sauveteurs sont tous bénévoles. Ce n'est pas un service géré par l'État, c'est une association.
D'accord.
Le matelot Geoffroy, par exemple, que vous allez entendre, il tient un magasin de plongée ici, à Port-en-Bessin.
Il n'y a pas de sauveteurs en mer, à part nous. Il n'y a pas de service d'État, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a rien du tout. Sur l'autoroute, on a les remorqueurs qui viennent. Donc on sait que si on crève ou qu'on abîme la voiture sur le bord de la route, il y a quelqu'un qui peut venir nous chercher. En mer, il n'y a que nous. Donc il y a vraiment un lien important entre les pêcheurs et nous. Ils sont bien conscients que le service qu'on fait, nous, c'est ce qui peut leur sauver la vie un jour.
Combien ça coûte le bateau de sauvetage dont ils ont besoin ?
200 000 euros. Et ce matin, j'ai regardé, ils en sont à un peu moins de 35 000 euros récoltés, sachant que d'autres sauveteurs un peu partout en France alertent sur le mauvais état de leur bateau. Plusieurs cagnottes ont été créées. C'est vraiment une alerte, un appel qui est lancé par tous les sauveteurs en mer ce matin sur Europe 1.
Si on peut le relayer et si ça peut faire bouger les choses, on est là aussi pour ça. Si vous voulez les soutenir, on vous donnera les liens, les cagnottes pour... effectivement, qu'ils puissent avoir leur nouveau bateau sur le site d'Europe1.fr ou sur les réseaux sociaux. C'était Martin Fenneau, près de chez vous, tous les jours sur Europe 1.
Nico Saliagas sur Europe 1.
L'édito éco avec Nicolas Barré arrive. On va parler de la guerre de l'intelligence artificielle avec
oui,
vous
c'est une guerre qui, exactement, c'est une guerre qui ne fait pas de bruit, mais que Trump a déclenché et on a intérêt à réagir, sinon on est mort.
Enfin, avec vous, non, voilà. Je me sens toujours en sécurité. Vous jouez contre l'échec électronique ? Vous arrivez à battre, non. J'imagine, l'ordinateur, Nicolas Barré. À 7h20, coup d'œil sur le rendez-vous footballistique immanquable du jour. Le choc ce soir entre le Paris Saint-Germain et Manchester United en 8e de finale. Paris est-il prêt ? Je poserai la question à notre tout nouveau consultant foot Europe 1, Alain Roche, dans Europe 1 va plus loin. On parle évidemment de la Ligue des Champions.
Excellent réveil à tous sur Europe 1, il est 7h14. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Explosion des actes antisémites l'an dernier en France, plus 74%. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, hier soir. Le conseiller spécial d'Emmanuel Macron démissionne. Ismaël Emelien affirme qu'il s'en va parce qu'il s'apprête à publier un livre. Ce type d'accident est très rare. Deux tramways se sont heurtés hier soir à Issy-les-Moulineaux à Paris, en banlieue. Il y a 12 blessés, dont une personne grave. Et puis un Paris Saint-Germain sans Neymar, ni Cavani attendu ce soir sur le terrain de Manchester United. 8e de finale aller de la Ligue des Champions. On en parle dans moins de 5 minutes avec notre consultant Alain Roche sur Europe 1 dans Europe 1 va plus loin.
Europe 1. Et tout de suite, c'est l'heure de l'édito Éco, Nikos, avec Nicolas Barré.
Nicolas Barré, qui est le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Expliquez-moi pourquoi la guerre est déclarée. La guerre de l'intelligence artificielle. Donald Trump a décidé d'armer l'Amérique face à l'ennemi, les Chinois. la Chine et de faire de l'intelligence artificielle un cheval de bataille, une priorité nationale. Expliquez-moi tout.
Oui, voilà, il a signé hier soir un executive order, c'est-à-dire un décret présidentiel qui ordonne à toutes les agences fédérales de faire de la recherche en intelligence artificielle leur priorité. Et c'est peut-être la décision la plus importante de la présidence Trump jusqu'à présent. L'ennemi, donc, est clairement désigné, vous l'avez dit, la Chine de Xi Jinping, qui veut devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2025. La Chine, en fait, applique à la lettre le théorème de Poutine qui a dit « Ceux qui seront les leaders en intelligence artificielle seront les maîtres du monde ».
Pourquoi il met le paquet, Trump, aujourd'hui ?
Eh bien d'abord pour des raisons de défense. Le Pentagone insiste sur le risque de se faire dépasser donc par la Chine. C'est quoi l'intelligence artificielle au fond ? Ça consiste à fournir des masses énormes de données à un ordinateur qui ensuite simule l'intelligence humaine. Le problème aux États-Unis et en Europe, c'est qu'on exige un minimum de protection sur l'utilisation de ces données et pas en Chine. Et c'est comme ça que la Chine est en train d'essayer de prendre de l'avance. Or c'est stratégique, l'intelligence artificielle s'immisce partout, dans la défense bien sûr, pour guider nos missiles, nos avions de combat, assurer la sécurité des systèmes d'armes face aux cyberattaques, lutter contre des robots tueurs, etc. Mais on trouve l'intelligence artificielle aussi dans la médecine, dans l'organisation
partout.
Des transports, dans l'énergie, etc.
On est très dépendant. En Europe, on se situe comment vis-à-vis d'eux ?
Justement, on voit bien qu'il y a un duopole qui est en train de se constituer au niveau mondial entre la Chine et les États-Unis. La France, d'ailleurs, est le seul, avec le Royaume-Uni, le seul pays en Europe à investir dans l'intelligence artificielle au service de la défense. Mais enfin, on est très loin derrière. Le risque de décrochage de l'Europe est grand et l'initiative de Trump doit être pour nous un signal. L'Europe doit absolument réagir. Sinon, ben, nous deviendrons une colonie numérique des États-Unis.
Nicolas Barré pour l'édito Écho tous les jours sur Europe 1.
Europe 1. Nikos Aliagas.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Consacrée ce matin à la rencontre footballistique très attendue entre Manchester United et le Paris Saint-Germain.
Bonjour, c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain qui joue à partir de 21h sur le terrain de Manchester United. Match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Un match très attendu à vivre en direct en intégralité dès 20h sur Europe 1. Bonjour Alain Roche.
Bonjour Nikos.
Vous êtes notre nouveau consultant Europe 1 et vous faites vos débuts avec nous. Et vous êtes surtout un ancien défenseur international du PSG. Vous avez gagné la Coupe d'Europe des vainqueurs des Coupes, c'était en 1996.
Il y a très longtemps.
Le seul trophée européen de l'histoire du PSG.
Exact.
Il est important, donc vous savez de quoi vous parlez. Et vous avez aussi dirigé le club parisien. Alors pour vous, cette version du Paris Saint-Germain, version Qatar, est-ce que cette version peut faire l'écart ou le chemin est encore long ?
D'un point de vue économique, elle fait partie des grands européens. Elle a la capacité aussi à attirer les plus grands joueurs européens, à l'image de Neymar ou même Mbappé et Cavani. Elle est un concurrent direct à tous ces grands clubs européens dans le recrutement. Après, pour basculer dans la cour des grands, c'est le sportif qui compte. Et pour l'instant, le PSG n'est pas régulièrement, en tout cas dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Ça fait 7 ans qu'il essaye d'y arriver. C'est des quarts de finale ou c'est deux éliminations en huitième de finale depuis 2 ans, donc c'est insuffisant pour l'instant. C'est là où il est attendu.
La cour des grands, c'est quoi ? C'est uniquement le résultat ?
Et que ça, c'est ce qu'on retient. Vous me parliez qu'on avait gagné la Coupe d'Europe il y a 96, c'est ce qu'on
aujourd'hui retient.
C'est pour ça qu'il faut s'imposer absolument, ou en tout cas titiller les plus gros.
Efficacité, mettre le but, et voilà, on ne retient que les chiffres à la fin. Alors, on a beaucoup parlé de la malédiction qui toucherait le club parisien. Les blessures de Neymar, de Cavani, de Thomas Meunier, ça va être dur pour le PSG ce soir, concrètement, face à Manchester ?
Il y a quelques atouts offensifs en moins, que ce soit Neymar ou Cavani. Quand on est joueur de foot, on rêve de jouer ces matchs-là, c'est dans leur ADN, et c'est là où ils s'expriment le mieux. Donc c'est vrai qu'il y a un atout offensif en moins. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce sont une qualification, ce sont deux matchs. Un match aller à Manchester, un match retour au Parc des Princes.
Ouais.
Donc absolument limiter la casse, être bon, être solide.
Pas de risque ce soir alors ?
Pas de risque, il faut en prendre, parce que si vous marquez à l'extérieur, c'est un atout supplémentaire. Et vous avez Mbappé qui est dans cette équipe-là. Mais c'est vrai qu'on a une équipe qui est solide. Il ne faut pas non plus se faire une montagne de Manchester.
Il peut faire la différence tout seul, Mbappé ?
Oui, ben il l'a démontré en équipe de France, avec ce titre de champion du monde. Il l'a démontré avec le Paris Saint-Germain. Positionner un système de jeu où il va avoir beaucoup de liberté, déchargé de toutes les tâches défensives. Et cette équipe de Manchester joue beaucoup vers l'attaque, donc laisser beaucoup d'espace aussi, et parce qu'elle doit s'imposer chez elle avant le match retour, et ça peut donner beaucoup de liberté, de possibilité à Mbappé.
Elle va être aussi portée par les supporters, et ils sont chez eux, et puis il y a Pogba.
Il y a Pogba qui rayonne depuis l'arrivée d'Ole Scholz.
Face à son copain Mbappé.
Jamais à dire le nom de cet entraîneur.
Allez-y.
Mais il a, en tout cas, il a réussi à fédérer ses joueurs, à leur redonner le sourire, à les faire gagner. C'est quand même le plus important.
Il y a de la psychologie aussi. Hein.
Il y a la psychologie, oui, bien sûr. Alors après, c'est un disciple aussi d'Alex Ferguson qui avait tout gagné à Manchester. Mais c'est vrai que cette équipe rayonne en ce moment. Mais elle n'a battu que des équipes qui sont en dessous du Big Five ou du Big Six, comme on dit en Angleterre. Elle s'est imposée face à Tottenham avec de grandes difficultés. Elle est prenable parce qu'elle prend beaucoup de risques. Mais le PSG a vraiment des armes pour la gêner.
Donnez-nous un pronostic pour finir à La Roche.
Je dirais match nul.
Et au retour ?
Mais il faut s'imposer. Là, si on veut escalier, il faut gagner. En espérant que certains joueurs qui sont absents puissent revenir.
Manchester, Paris Saint-Germain, coup d'envoi 21h, match à suivre sur Europe 1 dès 20h en intégralité. Merci Alain Roche, est heureux de vous avoir parmi nous dans la rédaction d'Europe. Et puis évidemment, allez Paris ! Ça, c'est Europe 1 va plus loin, mais dans un instant, c'est Anissé qui va aller plus loin.
Exactement. Et si vous avez un pronostic justement pour ce match, hein, dites-le nous sur les réseaux sociaux, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Vous nous emmenez où, Anissé Mbida, pour l'innovation ?
Je vous emmène sur les plages bretonnes à la découverte d'un petit ver de terre qui peut sauver des vies grâce à son sang.
C'est une magnifique histoire. À tout de suite, on a hâte de la partager avec nos auditeurs.
Bon réveil à tous, il est 7h23. Et les 7h25, EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anissé Mbida, Nikos.
Et hier soir, mon cher Anissé, j'ai assisté à la cérémonie des trophées d'Europe 1 de l'avenir. C'était une soirée qui a récompensé les femmes et les hommes, des chercheurs, des médecins, des entrepreneurs, des élus, des responsables associatifs, qui innovent dans leur domaine. Et ce, pour une société durable et éco-responsable. J'ai appris plein de choses. Et le lauréat dans la catégorie santé, c'était un monsieur qui est monté sur scène et qui nous a présenté sa société, qui s'appelle Emarina, et qui veut révolutionner les greffes avec du sang de ver marin.
Oui, parce qu'aujourd'hui, quand un donneur décède, on n'a que quelques heures, pas plus, hein, pour prélever ses organes et les transplanter. Sinon, ils finissent par manquer d'oxygène et à se détériorer. Et donc, trop souvent, on se retrouve à jeter des organes parce qu'on n'a pas eu le temps de les transplanter, alors qu'aujourd'hui, il y a une pénurie d'organes. Et bien, désormais, on sait conserver les greffons parfaitement oxygénés jusqu'à une semaine, ce qui va laisser beaucoup plus de temps aux chirurgiens. Et tout ça, vous l'avez dit, grâce à une super hémoglobine d'un ver marin qu'on connaît tous, hein, puisque c'est celui qui laisse des petits tourbillons sur les plages à marée basse, hein, les Bretons l'appellent le bzuc.
Ouais, le bzuc, 25 ans pour justement comprendre le fonctionnement de ce ver marin. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette hémoglobine ?
Eh bien, elle peut fixer 40 fois plus d'oxygène que la nôtre, hein, et ça, ça change tout, puisque ça va permettre d'éviter les pertes, de greffer beaucoup plus de monde, sans que ce soit la course, hein, une course contre la montre, comme il y a aujourd'hui.
Alors, je vais vous donner un chiffre pour clore cette discussion. Il y a 6000 greffes chaque année en France. 6000 greffes, mais il y a 23 000 demandes. Il y a 23 000 personnes en liste d'attente. Il est donc important d'accepter de donner ses organes à sa mort. C'est un sujet encore tabou. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin, avec vos proches. Cela peut aider à sauver des vies. Merci Anissé Mbida.
L'innovation du jour avec EDF, bâtiment durable, éclairage intelligent, mobilité électrique. Avec EDF, devenons l'énergie qui change tout. Plus d'infos sur edf.fr.
Et à 13h, ne ratez pas sur Europe 1 l'émission La France qui bouge avec tous les lauréats des trophées Europe 1 de l'avenir. Autour de Raphaël Duchemin qui était la maîtresse de cérémonie hier soir.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite on retrouve Laurent Cabrol, Nikos pour la météo.
Mon cher Laurent Cabrol, les plages bretonnes, les vers marins, les embruns.
Elles seront un petit peu sous la brume, mais sous un voile nuageux, parce qu'aujourd'hui nous avons encore un brin d'humidité sur la France, mais c'est une humidité qui vraiment s'en va à vitesse grand V, de sorte que certes il y a des brouillards, mais rapidement ces brouillards vont se lever. Ils vont laisser quand même un voile sur le littoral de la Manche, le littoral atlantique précisément, la vallée de la Loire, et puis sur certaines régions, même des nuages comme en Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, Bourgogne, Centre, Île-de-France, mais des nuages qui laisseront percer des éclairs. Merci, bien entendu. De soleil pur et simple sur le sud-ouest, le massif central, la région Rhône-Alpes, la Franche-Comté et le bassin méditerranéen. Donc vous voyez, nous sommes encore obligés de compter avec certaines nuances, alors que dans les jours qui viennent, eh bien, comme l'anticyclone est du genre anticyclone sec, dans les jours qui viennent, il n'y aura pratiquement pas de brouillard. Je termine avec les températures. Oui. Ce matin, il fait froid, couvrez-vous mes amis. Entre moins 3 et plus 6 degrés.
Quand même.
Et dans la journée, 5 à Épinal, 7 à Colmar, 8 à Mâcon, Lyon, Paris, Clermont-Ferrand et Lille 9, 11 degrés à Caen, 12 à Toulouse, 13 à Bordeaux, 15 à Marseille et 16 degrés en Corse et à Béziers.
Merci Laurent, on vous retrouve avant 8h.
À suivre Nicolas.
Jean-Michel Apathy à 7h40 et une question, combien ont coûté les manifestations des Gilets jaunes aux collectivités? 7h43, Axel de Tarlé qui nous parlera, tiens, d'Alexandre Benalla qualifié d'éblouissant. Il nous dira pourquoi. 7h45, je reçois une femme rabbin, spécialiste des questions d'antisémitisme, Delphine Horviller. Plus de 74% d'actes antisémites en France en 2018. Comment explique-t-elle ce chiffre glaçant? Je lui poserai la question. Excellent réveil à tous. Vous écoutez Europe 1, on vous accompagne jusqu'à 9h.
Et bienvenue ce mardi 12 février, il est 7h30.
7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Le journal avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. Et s'il était possible de passer le permis avant 18 ans? C'est une des propositions du rapport sur la réforme du permis de conduire qui est remis aujourd'hui au Premier ministre. Jérôme Lacroix, la possibilité de conduire dès l'âge de 17 ans, mais sous certaines conditions.
Oui, une condition majeure à prendre via la conduite accompagnée. Alors pourquoi? Eh bien parce que les chiffres montrent que cette méthode est vertueuse. Taux de réussite à plus de 74% et du coup... Eh bien, encourager la conduite accompagnée pourrait permettre de réduire la facture du permis parce que besoin de moins de leçons, tout simplement. Vous savez que c'est le souhait d'Emmanuel Macron à réduire le coût de l'examen, aujourd'hui 1600 euros en moyenne. Ce permis, dès 17 ans, serait valable uniquement sur le territoire national et il pourrait être assorti de limites comme l'interdiction de conduire la nuit. En tout cas, l'idée ne fait pas l'unanimité. La prévention routière alerte sur des jeunes toujours plus exposés aux dangers de la route. À noter que parmi les 23 propositions du rapport parlementaire, on trouve aussi la possible gratuité du permis s'il est passé dans le cadre de l'intégralité du service national universel qui doit être lancé en juin, ou encore la création d'un portail internet pour un accès facile à une aide au financement du permis.
Merci Jérôme Lacroix. Une hausse vertigineuse, celle des actes antisémites en France en un an, plus 74%, annoncé hier soir de Christophe Castaner qui s'est rendu à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, où un lieu à la mémoire d'Ilan Halimi a été profané, un arbre scié, un autre abattu, et cela quelques jours seulement avant les 13 ans de la mort du jeune homme enlevé, séquestré et torturé pendant 3 semaines par ceux que l'on a appelé le gang des barbares. Le jeune homme de 23 ans avait été ciblé parce qu'il était juif. Le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, Frédéric Petita, a porté plainte.
Ma première réaction est du dégoût et puis sentiment de colère. Nous avions planté ces armes en la mémoire d'Ilan et ces actes antisémites viennent attaquer une nouvelle fois Ilan et sa mémoire. J'appelle l'ensemble de la communauté nationale à venir nous rejoindre mercredi matin à 10h, à l'endroit même où on a découvert le corps d'Ilan. Je crois que c'est extrêmement important que l'ensemble de la communauté nationale puisse participer à cet hommage, d'autant plus dans le contexte effroyable que nous connaissons aujourd'hui. Chaque acte antisémite est une attaque forte à la République.
Le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, joint par Pierre Herbulot pour Europe 1.
Et notez que dans quelques minutes, Delphine Horviller, femme rabbin du mouvement juif libéral de France, sera mon invitée.
Un départ de plus, Ismaël Emelien, conseiller spécial très proche d'Emmanuel Macron, quitte l'Élysée. Il a annoncé au magazine Le Point sa démission, qui prendra effet d'ici quelques semaines. Officiellement, il démissionne pour assurer la promotion d'un livre sur le progressisme.
Les cours vont reprendre normalement ce matin au lycée Louis Armand à Paris. Hier, les professeurs ont exercé leur droit de retrait après l'agression de l'un des leurs.
Oui, vendredi dernier, une prof de maths a été ciblée par un individu cagoulé qui est entré dans sa classe, l'a aspergé de gaz lacrymogène. Elle est depuis en arrêt de travail. On ignore s'il s'agit d'un élève ou d'une personne extérieure. Les précisions de son avocat Laurent Inker.
Ce qu'on sait, c'est qu'elle est dans une classe dans laquelle il y a deux caïds. Ils imposent en quelque sorte leur loi, empêchant les autres de travailler alors que les autres voudraient travailler. Il y a déjà quelque temps, il y avait un des élèves qui l'avait injurié. Mais on voit la gradation à partir d'une violence verbale, comme on passe à la violence physique, et un véritable passage à l'acte. C'est un véritable délit, c'est pas une incivilité quelconque. C'est un véritable passage à l'acte délictueux. Il est à craindre que ça puisse encore aller au-delà, s'il n'y a pas effectivement un arrêt mis dans cette classe par rapport à ces personnes.
Maître Inker, joint par Rémi Bossaron. Le drapeau de la France et le drapeau européen obligatoire dans les salles de classe, ainsi que les paroles de la Marseillaise, des mesures qui entrent dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'école de la confiance. Une cellule de crise ouverte hier soir après la collision entre deux tramways à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, près de Paris, la ligne T2. Bilan 12 blessés, dont un grave. On ne connaît pas encore les raisons de cet accident rarissime. Des bus de substitution ont été mis en place.
Et c'est un déclin auquel on ne fait pas franchement attention dans la vie de tous les jours, mais qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. La disparition des insectes.
Oui, près de la moitié des espèces sont en train de disparaître, un déclin sans précédent. Les scientifiques mettent en garde et appellent à changer radicalement la façon de produire les aliments. Écoutez François Lasserre, entomologiste et vice-président de l'Office des insectes et leur environnement.
La diversité diminue, tout le monde s'en moque parce qu'on a l'impression que tous les insectes nous embêtent alors qu'ils sont minoritaires, ceux qui nous embêtent. Les espèces qui nous embêtent, c'est moins de 5% sur la Terre entière. Et en fait, toutes les autres espèces, elles nous aident même, c'est qu'elles pollinisent nos fruits, elles recyclent les végétaux qui tombent au sol. Et donc, sans elles, on aurait un environnement un petit peu dégradé.
Un propos recueilli par l'Or d'Autriche, et c'est paradoxal, au même moment, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a salué le pragmatisme d'Emmanuel Macron à propos de la question de l'interdiction du glyphosate après un entretien avec le chef de l'État à l'Élysée. Fin janvier, Emmanuel Macron a déclaré que la France ne parviendrait pas à se passer à 100% de ce puissant pesticide dans les 3 ans, comme il s'y était pourtant engagé. Et notez que François de Rugy, ministre de la Transition écologique, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15. La doyenne des Français vient de fêter ses 115 ans, Nico, 115 ans. Sœur André, née Lucille Rondon-Alès dans le Gard, devenue religieuse à l'âge de 40 ans, après avoir été gouvernante à Marseille, institutrice à Versailles chez la famille Peugeot, une vie au service des autres. Aujourd'hui, elle coule des jours paisibles dans une maison de retraite du sud de la France où Nathalie Chevance l'a rencontrée.
Oh, ça me fait beaucoup de joie parce que je suis entourée de beaucoup de tendresse et d'affection. Les jours de grandes fêtes, on a l'apéritif. On ne m'en prive pas, mais je me fâche un peu avec le bon Dieu. Parce que pour arriver à 115 ans, ne vous faites pas d'illusions. Il y a des ennuis. Et moi, je ne les accepte pas. Je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas me lever. Ce n'est pas drôle quand on a eu une vie très active. Et là maintenant, c'est moi qu'on dort l'autre. C'est trop.
Ma sœur, quel est le secret de la longévité ?
Rien du tout, parce que je ne me suis jamais ménagée. Le travail, c'est la santé.
Voilà, on va bosser alors, Nikos.
On se lève très tôt, le travail c'est la santé. Merci madame, bravo, j'espère là pouvoir la photographier. Je vais appeler Nathalie Chevance à Marseille. On ne sait jamais. J'adore parce que quand vous regardez le visage d'une personne qui a vécu et qui ne cache pas son âge, c'est toute sa vie, donc la nôtre, qu'on retrouve sur ce visage qui devient presque une carte. Merci Céline Kallmann, vous qui n'avez pas une ride alors que vous vous levez à 2h du matin. Merci beaucoup.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre, la politique avec Jean-Michel Apathy.
Combien ça coûte les 13 samedis de manifestation des Gilets jaunes?
Vous voulez
ça
que je vous donne cher une réponse? Je ne l'ai pas, vous l'avez?
Et ça coûte cher au Oui, vous allez écouter la chronique, ça coûte cher aux contribuables.
Bon, Axel de Tarlé, bon anniversaire déjà.
Bon anniversaire.
Bravo, comment vous le savez?
Je sais tout.
J'ai pas encore l'âge de sœur.
Mais vous en approchez.
Alors moi, je vais vous parler des méthodes de recrutement, des entretiens d'embauche pour vous expliquer pourquoi on a tout faux en France dans notre façon de recruter les gens.
Apathy Tarlé, le duo gagnant dans un instant sur Europe 1. J'espère que vous êtes bien réveillés. On est là avec vous jusqu'à 9h.
Il est 7h38. Il est 7h39. Nikos Aliagas, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et Céline Dacosta, ça fait déjà 13 samedis que les Gilets jaunes manifestent. Et à l'image d'Alain Juppé hier, ce sont plusieurs maires des grandes villes qui montent au créneau, qui poussent des coups de gueule. Ils en appellent à l'État pour faire face à la casse et aux faillites des commerces. Le chiffre est salé, Jean-Michel Apathy?
Ah oui, très très salé. Plusieurs centaines de millions d'euros déjà pour les collectivités territoriales, l'État et donc les contribuables, comme le mouvement des Gilets jaunes est né de l'idée qu'il y avait trop d'impôts, on va en payer un petit peu plus pour assurer les 13 samedis de manifestation dans les différentes villes de France. Les villes, les grandes villes, les maires sont regroupés dans une association qui s'appelle France Urbaine. Ils rencontreront des membres du gouvernement demain pour essayer de partager l'addition. C'est Bordeaux, Dijon, Lyon, Nantes, Paris, Rennes, Rouen, Saint-Étienne, Toulouse. Et que disent les maires de ces villes-là? D'abord que chaque samedi, il y a des abribus dégradés, il y a du mobilier urbain qui est cassé, des biens publics qui sont endommagés. Chaque semaine, il faut mobiliser les services municipaux. Avant la manifestation, il faut protéger ce qui peut l'être. Et puis après la manifestation, il faut nettoyer ce qui doit l'être. Donc tout ça, ça coûte cher. Et puis les commerces, bien sûr, dans le centre-ville, à la périphérie des centres-villes, ce sont des commerces où il y a des pertes de chiffre d'affaires, donc par exemple de recettes pour les TVA, des salariés qui vont être au chômage partiel. Et puis aussi, les maires s'en alarment, de plus en plus de dépôts de bilan auprès des chambres de commerce et des villes concernées. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a expliqué dimanche que déjà 70 000 salariés avaient profité du chômage partiel. C'est une note de 40 millions d'euros pour l'UNEDIC. Il faut ajouter à cela que des milliers d'entreprises ont déjà pris contact avec leur caisse de sécurité sociale pour différer le paiement des charges sociales. Et si ces entreprises fragilisées déposent le bilan, la sécurité sociale ne touchera rien. Donc tout ça, c'est un coût supplémentaire. Et puis, c'est la croissance qui souffre, parce que la consommation baisse, donc la production va baisser, et peut-être des gens qui voulaient investir se disent dans ce climat, on va retarder de quelques mois. Et donc c'est une chute de croissance, et donc tout ça, ce sont des centaines de millions d'euros à charge de la collectivité, c'est-à-dire des contribuables, évidemment, contribuables des villes, contribuables de l'État. Pendant ce temps, que font les leaders des Gilets jaunes? Parce qu'on peut se poser la question quand même, est-ce qu'ils réfléchissent à tout ça? Alors, on a l'impression que les leaders des Gilets jaunes préparent dans l'insouciance la plus absolue et l'égoïsme le plus total la 14e journée de manifestation, c'est-à-dire samedi prochain, et puis quand on lit leur page Facebook, la 15e, la 16e et la 17e sont déjà en route, bien sûr. Le mot d'ordre des Gilets jaunes, ou l'un des mots d'ordre, c'est de faire payer les riches au nom de la justice sociale. Eh bien, pour l'instant, ce sont les contribuables, les commerçants et des salariés modestes qui trinquent, comme quoi il y a un peu une erreur du côté des Gilets jaunes quant au but à atteindre.
C'était Jean-Michel Apathy avec son point de vue tous les jours sur Europe 1. Et voici Axel de Tarlé pour le Zoom Echo.
Donc Jean-Michel Apathy parle d'économie et moi je vais parler de politique.
C'est normal.
Voilà.
Vous avez décidé de nous parler d'Alexandre Benalla.
Exactement.
En fait, Alexandre Benalla qui serait une personne éblouissante. Selon qui, expliquez-nous.
Alors voilà, ça m'a frappé. J'ai lu Challenge, le dernier numéro de Challenge, et c'est Alain Minc qui dit « Alexandre Benalla est quelqu'un d'éblouissant ». Et Alain Minc, pourquoi dit-il ça? Il dit « je ne comprends pas pourquoi, malheureusement, je constate que l'ENA est aujourd'hui incapable de repérer des gamins comme ça qui s'avéreront éblouissants plus tard ». Et du coup, Alexandre Benalla dit-il faute de ne pas avoir fait l'ENA, il est parti en zone d'ombre. Et Alain Minc voit dans cette histoire la preuve, le signe que l'ascenseur social est bloqué en France. On le sait, c'est l'un de nos problèmes, ce fameux plafond de verre. On est bloqué en France quand on n'a pas les bons diplômes, les bons CV, les bons réseaux, les bonnes connexions.
Les bons contacts, surtout. Voilà. Ouais. C'est pas le cas dans d'autres pays?
Eh bien écoutez, pas autant. C'est très typique de la France de regarder votre diplôme, votre parcours et d'où vous venez. Aux États-Unis, par exemple, vous savez comment le patron d'Amazon, Jeff Bezos, qui est parti tout seul dans son garage, qui a créé la plus grosse boîte du monde parce qu'il a su s'entourer, parce qu'il a su embaucher les bonnes personnes. Vous savez comment il fait pour les entretiens d'embauche? C'est une méthode radicalement différente. Il avait lui-même été embauché de cette façon dans les années 90 et ça l'a marqué. Pour repérer les bons aux États-Unis, les candidats doivent résoudre une énigme. On leur demande par exemple... combien il y a de fax aux États-Unis? Et l'important, c'est pas de connaître la réponse, combien il y a de fax aux États-Unis. L'important, c'est de voir comment le candidat va raisonner, comment il va décortiquer le problème pour trouver la réponse. Et l'objectif, c'est de mesurer la capacité du candidat à résoudre un problème,
l'adaptation,
à surmonter une difficulté. Vous voyez, c'est très intéressant. Aux États-Unis, en tous les cas, Jeff Bezos veut mesurer votre potentiel à venir. On est tourné vers l'avenir, vers votre potentiel futur, alors qu'en France, on va regarder votre passé, ce que vous avez fait, où vous êtes né, votre CV, les diplômes que vous avez.
Parce que ça rassure peut-être. Mmh. Ça veut dire quoi? Qu'on est bloqué dans notre pays, qu'on n'a pas les bons diplômes ou les bonnes énigmes, les bonnes questions à poser?
Eh bien écoutez, on le sait, c'est difficile en France de se faire embaucher, de progresser quand on n'a pas les bons diplômes, les bonnes adresses, les bons codes sociaux. Vous savez, toutes les tentatives de CV anonymes ont échoué. Alors si, il y a bien une solution quand on est brillant et qu'on n'a pas de réseau ni de CV. Si on ne peut pas être embauché, c'est de s'embaucher soi-même, c'est de créer sa propre entreprise. La semaine dernière, ça m'a frappé, il y avait le Salon des entrepreneurs à Paris. Chiffre de l'INSEE, 12% des entrepreneurs sont sans diplôme, sont autodidactes. Vous voyez, ça fait réfléchir.
Il faut essayer, il faut se lever, il faut avoir des idées, ne pas avoir peur.
L'une des infos de la chronique, c'est qu'il y a des fax aux États-Unis.
Il y en a encore. Axel de Tarlé, le Zoom.
On commence
à
résoudre l'épreuve, Jean-Michel.
Oui, je cherche.
Quotidiennement. Voilà. Et vous avez, c'est quoi votre âge aujourd'hui?
À 49.
Bon, vous êtes jeune, ça va, tout va bien. Voilà, là, la succès.
L'âge de résoudre des énigmes.
La réussite, elle est là. C'est qu'on n'a pas d'âge quand on est bon. Axel de Tarlé, tous les jours sur Europe 1.
Nicolas Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, je reçois une femme rabbin, spécialiste des questions d'antisémitisme. Elle s'appelle Delphine Horviller. Et on va tenter d'expliquer la terrifiante recrudescence des actes antisémites en France. En 2018, plus de 74%. C'est ce que nous a dit hier le ministre de l'Intérieur. Entretien de pas manquer dans quelques instants.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 7h45. Il est 7h47, les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Aliagas.
Les actes antisémites commis en France ont progressé de 74% en un an, annonce hier de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu dans l'Essonne où des arbres en mémoire d'Ilan Halimi ont été sciés à quelques jours de ses 13 ans, des 13 ans de sa commémoration. Plusieurs inscriptions antisémites ont été aussi découvertes à Paris sur des portraits de Simone Veil. On en parle dans quelques secondes avec mon invité. 12 blessés, dont un grave. Bilan d'une collision entre deux tramways hier soir à
Issy-les-Moulineaux, tout près de Paris. Une enquête interne a été déclenchée pour comprendre les causes de cet accident. L'employé de la société de transport de fonds Loomis et les plus de 3 millions d'euros qu'il transportait restent introuvables depuis hier. Le conducteur a-t-il pris la fuite avec l'argent? A-t-il été braqué? Aucune hypothèse n'est à exclure. Soirée spéciale Ligue des Champions ce soir à partir de 20h sur Europe 1. Manchester United reçoit le Paris Saint-Germain. Coup d'envoi à 20h45.
Europe 1. Nico Saliagas, un arbre planté en la mémoire du jeune Ilan Halimi vandalisé, plusieurs inscriptions antisémites à Paris ces derniers jours. Pourquoi la recrudescence de ces actes? Vous recevez ce matin une femme rabbin, Delphine Horviller. Elle a publié Réflexions sur la question antisémite aux éditions Grasset.
Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe en France depuis quelque temps?
Ça fait un moment déjà qu'on tire les sonnettes d'alerte et on a l'impression que ces chiffres ne cessent de croître. On entend ce matin parler de 74% d'augmentation des actes antisémites. 74, c'est un chiffre terrifiant, glaçant. Moi, je pensais ce matin, ça n'a rien à voir, mais on est exactement 74 ans après la fin de la guerre. Voilà, c'est exactement le même chiffre. Et on se pose tous la question de jusqu'où on va aller comme ça? Pourquoi est-ce qu'on semble ne rien apprendre de l'histoire et pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas que quand on s'en prend aux Juifs, bien évidemment, on s'en prend toujours à la République, bien entendu, mais on annonce, c'est toujours un prélude d'une violence qui va s'abattre sur tout le monde.
Ce sont des prémices de quoi ?
Je crois que ce sont des prémices d'une violence généralisée. Moi, j'ai beaucoup travaillé cette question dans mon dernier livre, notamment cette idée que l'antisémitisme, c'est toujours l'annonce d'une faillite générale. En réalité, ce qu'on voit à travers le juif, c'est la faille d'une société. On s'imagine qu'en l'accusant de quelque chose qu'il aurait ou qu'il serait ou qui nous ferait défaut, eh bien, on va tenir à distance un regard qu'on va porter sur soi-même. C'est pas du tout un hasard que l'antisémitisme se développe systématiquement dans les moments où montent les théories du complot et cette idée d'une simplification de l'histoire, l'idée qu'il y a un grand responsable, qui est l'autre. Et ce qui est troublant, c'est que bien souvent, on demande aux Juifs de l'expliquer. C'est-à-dire que je suis contente d'être invitée ce
bien
matin
sûr.
Et je vous remercie de m'inviter, mais je m'étonne toujours.
C'est plutôt à l'autre de l'expliquer, celui qui
c'est pas le problème des Juifs, mais l'antisémitisme. C'est vraiment le problème d'une nation, le problème bien entendu des antisémites, mais aussi de tous ceux qui les tolèrent ou finalement qui ferment les yeux ou qui tournent le regard. Et c'est troublant parce que ce matin, on est nombreux à se sentir très mal, nombreux à avoir une boule au ventre. Alors bien entendu, il faut parler de l'actualité. Et j'entends, on parle ici sur ce plateau comme ailleurs des matchs de foot qu'on va tous regarder ce soir. Mais il y a quelque chose qui tourne pas rond et on se demande, si vous me permettez cette analogie, qu'est-ce qu'on fait pour entrer sur une surface de réparation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait pour engager vraiment une réparation? Et ce qui est sûr, c'est que on peut pas attendre simplement de la victime qu'elle explique elle ce qu'elle va faire, comment elle va réagir ou comment elle se sent. C'est une problématique nationale qui nous concerne tous parce que quand on parle des Juifs, on parle en réalité de l'humanité, on parle de tout le monde.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher l'info, il ne faut pas dire qu'hier le visage de Simone Veil a été tagué avec des croix gammées. Est-ce qu'il faut communiquer des statistiques? Il y a eu 541 actes. Est-ce qu'on doit en parler comme quelque chose qui est de l'ordre statistique ou d'un malaise plus profond? Quand une société commence à chasser le bouc émissaire ou à le créer, ou par peur, vraisemblablement, qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse, nous, médias, les citoyens, les auditrices, auditeurs qui nous écoutent ce matin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le dire ou au contraire faire comme si cela n'existait pas?
Il faut le dire, mais il faut bien être conscient que souvent les chiffres ne parlent à personne. Il faut rappeler d'autres évidences. Rappeler, par exemple, il y a une phrase célèbre de Frantz Fanon qui dit « Quand on parle des Juifs et quand on dit du mal des Juifs, tends l'oreille parce qu'on est en train de parler de toi. » Et bien comprendre que ces attaques contre les Juifs, vous savez, c'est facile de dire, il y a toujours ces gens qui vont dire que c'est parce que les Juifs ont quelque chose ou font quelque chose,
savent
ou seraient quelque chose,
chose
ou savent quelque chose. On va toujours greffer sur le Juif l'idée qu'il est en contrôle, qu'il a le contrôle, qu'il aurait l'argent, qu'il serait qu'il pourrait. Tous ces clichés antisémites ancestraux, on va dire que l'antisémitisme aurait quelque chose à voir avec le conflit israélo-palestinien, l'importation d'un conflit. Mais tout ça, on voit bien, c'est grotesque. Et on le voit aujourd'hui quand on s'en prend aux morts. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend à l'image de Simone Veil, on s'en prend à l'arbre d'Ilan Halimi, on s'en prend aux morts. Et s'en prendre aux morts, c'est bien la démonstration que ça n'a rien à voir avec ce que les Juifs feraient ou font ou ont. Cela a à voir avec ce qu'ils sont, ou plus exactement, ce qu'ils représentent dans l'esprit antisémite.
Adam, est-ce qu'on a affaire à un antisémitisme idéologique, systématisé, organisé, ou à l'expression d'une bêtise profonde? Comment, dans un pays où on peut à quelques mois d'intervalle, rendre hommage à une femme, à une Française, Simone Veil, jusqu'au Panthéon. Comment est-ce quelques mois plus tard, on peut taguer sur son visage une croix gammée ?
L'antisémitisme, il a toujours eu des visages qui mutaient. On a assisté dans l'histoire à des moments d'antisémitisme théologique, à des moments d'antisémitisme idéologique, économique, raciaux. Mais en réalité, c'est toujours un bon vieil antisémitisme qui revient. Ça n'a pas vraiment de sens de parler d'un nouvel antisémitisme qui nécessiterait une lutte spécifique. Parce qu'en réalité, c'est toujours un bon vieil antisémitisme. Et il faut toujours se poser la question, pas juste de qui sont les antisémites, de comment est-ce qu'ils parlent, mais de dans quelle mesure chacun peut à un moment de sa vie parler la langue antisémite, sans même s'en rendre compte parfois.
C'est quoi
parfois.
La langue antisémite, la langue antisémite, c'est libérer la parole, libérer ses peurs.
C'est tout à coup être comme envahi par des clichés ancestraux qui ouvrent une boîte de Pandore d'un bon vieil antisémitisme. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, quand des gens se mettent à parler d'un contrôle, des élites, d'un pouvoir, des puissants et des riches et de leur culpabilité, on voit bien que ces mots d'élite, de complot, de riches, de courtisans et que sais-je encore, ils sont associés sans que le mot antisémitisme ne soit prononcé à une boîte de Pandore qu'on ouvre qui a tout à voir avec un bon vieil antisémitisme et ça demande une vigilance particulière de chacun.
Donc j'imagine vous en appelez aussi aux politiques à prendre leurs responsabilités, à ce qu'il y ait une loi, à ce qu'elle puisse punir. Que dites-vous ce matin Emmanuel Macron et Édouard Philippe ?
Alors moi j'ai pas tant à dire à Emmanuel Macron et à Édouard Philippe qu'à tout un chacun en réalité, parce que je crois que les pouvoirs publics depuis des années ils mettent en place des plans et on voit bien que la problématique c'est pas tant la parole politique institutionnelle que la façon dont les citoyens vont s'en emparer. Moi je me pose la question et je rêve ce matin à ce qu'il y ait oui une réaction nationale. Il se trouve que de semaine en semaine il y a des gens dans les rues aujourd'hui en France. Je rêve d'imaginer que peut-être samedi prochain, le thème de cette manifestation, les panneaux qu'on y verra, seront des panneaux qui diront d'une certaine manière « not in my name ». C'est-à-dire que des gens pourront
pas
dire
en mon nom.
Pas en mon nom, c'est pas notre haine qui doit s'afficher ici, que ces gens qui manifestent semaine après semaine puissent aujourd'hui dire hautement, clairement, comme toute la population française, que c'est leur combat, c'est pas celui des pouvoirs publics et c'est pas celui des juifs.
Merci Delphine Horvilleur d'avoir été notre invitée ce matin. Vous êtes rabbin, je rappelle que votre livre « Réflexion sur la question antisémite » est publié aux éditions Grasset.
Vous souhaitez réagir à l'actualité, à cette actualité, appelez-nous au 3921 ou réagissez également sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, nouveau coup dur pour le président de la République. Son conseiller spécial Ismaël Emelien, l'homme de l'ombre le plus influent de l'Élysée, rend son tablier. L'analyse dans le service politique d'Europe 1, ne pas manquer dans le journal. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas, un ministre qui porte des dreadlocks. Vous en pensez quoi ? Ça se passe pas en France, ça se passe en Suède et ça fait grincer les dents, même en Suède.
Il est 7h55, à tout de suite sur Europe 1. À suivre dans le journal de 8h, Nikos.
Nouveau coup dur pour Emmanuel Macron, mais tout de suite, Jean-Philippe Ballas. Monsieur Bonjour. Ballas.
Pour la petite histoire
Bonjour
du
Nikos.
Jour.
Alors, on parle de quoi, camarade ?
On parle de la Suède avec un petit parfum de Jamaïque. J'ai lu ça dans le journal Le Monde, une polémique capillaire, dirons-nous. Elle concerne la nouvelle ministre de la Culture suédoise. Elle s'appelle Amanda Lind, elle a 38 ans. Elle
Amanda Lind ou Amanda Lind ?
Lind, je précise. Lind, alors, elle est blonde, vous me direz, c'est souvent le cas en Suède. Mais surtout, Madame la ministre porte des dreadlocks.
C'est bon ça.
Nuages de fumée dans le studio. Oui, des dreadlocks, de longues tresses comme Bob Marley en son temps. Les longues tresses, ça stresse les plus conservateurs en Suède. Ils ont surnommé Amanda Lind la ministre hippie sur le thème « Soyons sérieux, c'est pas ainsi qu'on représente son pays, même quand on est une militante écologiste pur jus ». Et ce n'est pas tout, parce qu'Amanda Lind s'attire aussi des critiques d'une artiste noire qu'il accuse de s'approprier une histoire, une culture afro qui ne sont pas les siennes. Réponse de l'intéressé pour les deux camps, non, elle ne va pas changer de coupe de cheveux, ça fait plus de 20 ans qu'elle porte des dreadlocks. Mais la ministre espère se montrer respectueuse de tous, dit-elle. Et puis c'est surtout sur le fond et pas sur ses tifs qu'Amanda Lind veut être jugée. Alors elle a fait une concession malgré tout pour la photo de classe du gouvernement suédois en portant des dreadlocks en chignon avec un foulard noir, histoire qu'on ne vienne pas lui chercher des poux. Blague à part, c'est du boulot d'avoir de belles dreadlocks, il faut nouer, il faut laver, il ne faut jamais peigner. C'est Bob Marley qui donnait ses conseils et qui parlait d'une protection, d'une identité rasta. Mais dans le fond, moi je pense surtout que les gens qui n'aiment pas les dreadlocks, ce sont des types un peu comme moi, un peu jaloux. Parce que vous savez quoi ? En vrai, les dreadlocks, ça fait bien longtemps que je ne peux plus en faire.
Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire. Et Laurent Cabrol arrive avec ses dreadlocks.
savez que la chute des cheveux, c'est la seule maladie où il n'y a pas de repousse.
Et la météo,
Bob Marley chauve, ça l'aurait pas fait, hein, je te le dis.
C'est avec Rénoval, Nikos. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. Laurent Cabrol, c'est à vous.
Bon, alors je vais vous parler du brouillard.
Get up, stand up. Levez-vous, Laurent, dites-nous tout.
Je vais vous parler du brouillard parce que depuis tout à l'heure, la situation s'est quand même sensiblement aggravée avec des brouillards très épais et nombreux et surtout givrants. Alors Saint-Dizier, Châlons-en-Champagne, Saint-Quentin, Nancy, Aurillac, Montauban, Rennes, Cher sont des secteurs, des départements ou des villes autour desquels il faut vraiment faire attention. La visibilité n'excède pas souvent 150 mètres et les brouillards sont givrants. Brouillards non givrants mais tout aussi épais, tous une noble en région parisienne, Roissy, Villacoublay, Dax et Gourdon, tout ceci en vrac, mais il est vrai que l'humidité est tellement importante sur la France en ce moment que nous avons cette zone de brouillard qui s'épaissit. Alors, ils vont bien sûr se lever avec le soleil. Dès que le soleil pointera, nous aurons des brouillards beaucoup moins présents, mais un ciel voilé sur le littoral de la Manche, le littoral atlantique et sur la vallée de la Loire. Quelques nuages sur Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace et sur l'île de France. Attention à Paris, pas de problème, hein, pas un temps sec, pas de pluie et des éclaircies même. Et du soleil dans le sud-ouest, le massif central, Rhône-Alpes, Franche-Comté et bassin méditerranéen. Température maximale entre 7 et 15 degrés.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce mardi 12 février. Bienvenue à tous, il est 8h. Et votre matinale info continue jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Et à 8h, voilà le meilleur. David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour, David.
Le poison de l'antisémitisme. Le nombre d'actes anti-juifs a explosé en 2018. Les arbres plantés en mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois ont été sciés. Profanation d'un lieu de mémoire. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Que se passe-t-il à l'Elysée? Ismaël Emelien, un proche parmi les proches, conseiller politique d'Emmanuel Macron, vient d'annoncer son départ. Est-ce le signe d'une usure en Macronie? Michael Darmon nous répondra dans cette édition. Et puis cette fois, nous y sommes. Voilà une affiche qui fait rêver. Le Paris Saint-Germain affronte ce soir Manchester United à Old Trafford. C'est un huitième de finale aller de la Ligue des Champions.
8h12, Vincent Herouette. Les États-Unis mettent la pression sur la Hongrie de Viktor Orban pour ses liens avec Moscou. 8h15, Audrey Crespo-Mara. Elle reçoit François Drugy, le ministre de l'Écologie.
Europe 1. Ilan Halimi a été assassiné en 2006 parce que juif. Il avait 23 ans. Avant cela, il avait été torturé pendant 3 semaines par le gang des barbares. À Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, 2 arbres avaient été plantés en sa mémoire à l'endroit où son corps avait été retrouvé. On a découvert hier qu'ils avaient été sciés. Nous rejoignons sur place Sébastien Krebs. Sébastien, c'est un lieu de recueillement qui a été profané.
Oui, et ce matin, il ne reste que quelques centimètres de tronc au sol en lieu et place de l'arbre qui avait été planté ici en 2007, un an après la mort d'Ilan Halimi et où une plaque en sa mémoire avait été accrochée. Un deuxième arbre planté 10 ans après a lui aussi a été abîmé dans ce lieu dont le souvenir glace le sang des habitants de Sainte-Geneviève-des-Bois ici au bord de la route, en contrebas des voies ferrées du RER. Ilan Halimi avait été retrouvé agonisant le 13 février 2006. Alors certains sont venus déposer des fleurs, des bougies. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a fait le déplacement hier soir. Ce sont des agents municipaux qui ont fait cette découverte hier matin alors qu'ils venaient préparer la cérémonie d'hommage qui a lieu ici chaque année, chaque 13 février. C'est demain. Le maire qui a porté plainte a promis qu'il replanterait des arbres encore plus gros.
Cette profanation, Sébastien, intervient dans un contexte particulier avec une résurgence de la parole antisémite depuis le début du mouvement des Gilets jaunes.
Oui, hein, rien que le week-end dernier, la justice a été saisie après la découverte en marge des manifestations de plusieurs inscriptions antisémites. Il y a eu ces croix gammées recouvrant les portraits de Simone Veil dans le 13e arrondissement, ce restaurant Bagelstein qui a aussi été visé. D'autres insultes ont été découvertes sur des murs, l'une visant Emmanuel Macron sur la façade du siège du journal Le Monde. Le ministre disait hier que les actes antisémites ont bondi de 74% en 2018, 541 recensés contre 311 l'année précédente.
74% d'actes antisémites en plus en 2018 par rapport à 2017, je le redis parce que vous avez eu une toute petite coupure de liaison. Sébastien Krebs, merci, vous étiez en direct de Sainte-Geneviève-des-Bois pour Europe 1.
Politique, un nouveau départ de l'Élysée.
Oui, parce qu'après celui de son directeur de la communication, Sylvain Faure, c'est un autre fidèle de la première heure qui quitte
quitte Emmanuel Macron, son conseiller politique, l'homme de l'ombre, Ismaël Emelien, a annoncé qu'il partirait à la fin du mois de mars. Bonjour Mickaël Darmon.
Bonjour.
Ce n'est pas, Mickaël, une démission anodine, parce que Ismaël Emelien, on le sait, c'est une pièce maîtresse de la Macronie depuis le début.
Isma, comme il est surnommé, eh bien c'est le chef de la start-up Macron, hein, proche des milieux strauss-kahniens. Il met au point tout le concept du mouvement En Marche. À l'Élysée, il devient conseiller spécial au cœur de la stratégie présidentielle en début de mandat. La rupture des codes traditionnels, les formules qui claquent, premier de cordée, le pognon de dingue, c'est lui l'inspirateur. Ismaël Emelien est aussi un adepte fervent du dégagisme, un partisan de sortir tous les aînés du système politique. Il cultive aussi sa légende d'homme secret. Il quitte donc l'Élysée au mois de mars, officiellement parce qu'il a écrit un livre sur les idées progressistes et qu'il veut poursuivre son engagement par la bataille des idées.
Mais pourquoi vous dites officiellement ?
Parce qu'évidemment, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Il y a une phase B, B comme Benalla, parce que Isma, c'est aussi l'ami d'Alex, Alexandre Benalla, qu'il conseille et protège depuis le début de ses ennuis. C'est Emelien qui persuade l'équipe présidentielle au printemps dernier que l'affaire ne sortira pas. Aujourd'hui, il est visé par l'enquête sur les agissements de Benalla. Et cette fois, à l'Élysée, on a tiré les leçons. On anticipe des ennuis à venir plutôt que de les subir. Il y a aussi une forme de lassitude classique après une campagne et deux ans de pratique du pouvoir. Avec la crise qu'il subit, Emmanuel Macron, en fait, est désormais convaincu que la politique et la communication sont des métiers. Le départ de sa plume, Sylvain Faure, au début de l'année, lançait le renouvellement de l'équipe présidentielle, comme on l'avait annoncé sur Europe 1. D'autres programmes, d'autres départs sont encore au programme, entre grands débats et remaniement permanent à l'Élysée. Emmanuel Macron consacre l'année 2019 à se réinventer.
Merci Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Et c'est vrai, Nico, je le rappelle, Emmanuel Macron lui-même avait quitté l'Élysée alors qu'il était conseiller de François Hollande. C'était en juillet 2014, deux ans après le début du quinquennat.
La grande loi de réforme de la santé arrive en Conseil des ministres demain matin.
Oui, avec la refonte de la carte hospitalière, la suppression du numerus clausus, dont on a déjà beaucoup parlé. Mais arrêtons-nous ce matin sur un aspect moins connu. Le texte a aussi pour ambition de diversifier les profils des étudiants qui se lancent en médecine. Explication de la chef du service société, Ève Roger.
Depuis quelques années, les facs de médecine le constatent, leurs élèves ont tous le même cursus standard, un bac scientifique mention bien ou très bien, et la plupart sont issus de catégories sociales supérieures. Alors pour diversifier les profils, la loi prévoit qu'un certain nombre d'étudiants, on parle de 30, même de 40%, puissent entrer directement en deuxième ou troisième année de médecine après une licence de leur choix, même éloigné des filières scientifiques, explique Jean Sibilia, le président des doyens des facs de médecine.
Il faut que les très bons lycéens puissent se dire « je pourrais aussi faire de la philosophie, de la littérature ». Bien sûr, il faudra une connaissance scientifique. Il serait aberrant de dire que la médecine se fera que sur des bases littéraires, évidemment. Mais on aimerait une diversification de la culture de ces lycéens, pas exclusivement scientifique et technique.
Alors ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Plusieurs décrets doivent maintenant déterminer comment ces nouveaux étudiants seront sélectionnés. Idem pour le passage de la première à la deuxième année. On nous annonce la fin du fameux concours couperet à base de QCM, mais sans autre précision pour le moment.
Ève Roger, la chef du service société d'Europe 1. Passer le permis de conduire dès l'âge de 17 ans, c'est l'une des pistes d'un rapport parlementaire présenté aujourd'hui. Le texte vise aussi à réduire le prix d'un examen jugé coûteux et trop long à obtenir.
Europe 1.
À suivre dans le journal de 8h, un procès hors norme qui débute aujourd'hui à Madrid, celui de la tentative de sécession de la Catalogne. C'était en 2017. On vous dit tout dans un instant. À tout de suite.
Il est 8h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
La suite du journal avec David Doucan et un procès historique qui commence aujourd'hui à Madrid.
Oui, celui de 12 dirigeants indépendantistes catalans accusés d'avoir organisé la tentative de sécession de 2017. Vous vous en souvenez, un référendum contesté, une déclaration d'indépendance de la Catalogne sans lendemain. Les prévenus risquent jusqu'à 25 ans de prison. Et notre correspondant à Madrid, Henri de Laguérie, a rencontré l'un d'eux, Jordi Cuixart, dans sa prison, l'une des figures du mouvement.
C'est un homme déterminé, prêt à affronter une lourde peine de prison, si c'est le prix à payer, dit-il, pour obtenir l'indépendance de la Catalogne. Dans un entretien qu'il nous a accordé depuis sa cellule, Jordi Cuixart, 43 ans, explique que le référendum était un acte de désobéissance civile, comparable à mai 68 ou aux marches des Noirs aux États-Unis. Pour son épouse, Chelle Bonnet, c'est un procès politique qui commence ce matin.
C'est une façon de criminaliser la mobilisation populaire et c'est une façon de criminaliser l'espoir légitime à ses droits de l'autodétermination. Pour ça, c'est très important, les résultats. de ce procès.
Jordi Couchard insiste, le mouvement a toujours été pacifique. Il entend faire de ce procès une tribune pour dénoncer la répression de l'État, ce sont ses mots. Mais l'Espagne est un État de droit, rappelle Gabriel Colomé, politologue, et la tentative de sécession ne peut rester impunie.
C'est des actes très graves contre la Constitution. L'Espagne, c'est une démocratie. Personne dans une démocratie pleine est devant un juge pour ses idées.
Retransmis en direct à la télé, le procès doit durer 3 mois. Le grand absent sera Carles Puigdemont pour échapper à la justice. L'ancien président catalan s'est installé à Bruxelles.
Henri de Laguérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Et cette fois, mon cher Nikos, oui. Nous y sommes. Nous y sommes. Vous leur aviez officiellement exprimé votre soutien hier matin, vous confirmez.
Oui, bon, j'assume tout.
Vous assumez. Je parle des hommes du Paris Saint-Germain qui affrontent ce soir en Angleterre Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Vous avez un pronostic. Vous
Moi, êtes je confiant. Dis un partout pour le match aller.
Un partout.
Et 2-0 au match retour.
Bon, voilà, c'est noté, c'est enregistré, tout le monde est témoin. Okay. Vous le savez, Nikos, Paris est affaibli par les blessures de Neymar et de Cavani notamment. Alors comment aligner tout de même l'équipe la plus performante? C'est notre spécialiste Cyril Delamorinerie qui nous répond.
Pour se qualifier, Paris n'a pas le choix et doit activer un plan D. Di Maria, Draxler et Dani Alves. Ces trois hommes auront la lourde tâche de faire oublier Neymar et Cavani. Ils devront épauler ce soir Kylian Mbappé en attaque. Un trio très expérimenté. Dani Alves a remporté 28 trophées dans sa carrière. Di Maria revient revanchard à Manchester après une saison ratée avec les Red Devils. Draxler a gagné la Coupe du Monde avec l'Allemagne en 2014 et ne s'affole pas.
Il ne faut pas parler de le joueur blessé. On va compter sur nous. Tout le monde qui est là et qui est prêt va essayer de faire un grand match. Et c'est pour ça qu'on est ici et on va tout donner, ça c'est clair.
De l'expérience et du talent, il y en a partout à Paris, notamment avec le légendaire gardien Buffon, 41 ans, mais aussi le capitaine brésilien Thiago Silva ou encore le champion du monde français Kimpembe. Mais surtout, Paris peut compter sur Marco Verratti, de retour de blessure et indispensable lors des grands rendez-vous.
Cyril Delamorinerie du service des sports d'Europe 1.
Et le match est à suivre en intégralité sur Europe 1. Soirée spéciale à partir de 20h jusqu'à 23h15, présentée par Lionel Rosso.
J'avais demandé la musique
Allez, Paris.
En
c'est
régie.
Pas du tout une musique de mégalo. Hein,
c'est une
vas-y,
surprise.
Au revoir, vas-y. David Doucan. Pour le journal de 8h.
Merci pour cette minute.
À demain.
La matinale d'Europe 1.
Nikos Aliagas.
Il est 8h12, coup d'œil à l'actualité internationale à présent avec Vincent Hervouette, Nikos.
Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour à tous.
C'est une première, un Américain à Budapest. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a rencontré hier le ministre des Affaires étrangères hongrois. Poignée de main, on l'entend. Photographie, séance de travail, conférence de presse commune avec un avertissement très ferme de Mike Pompeo aux Hongrois.
Oui. Nous ne devons pas laisser Poutine creuser les divisions entre amis dans l'OTAN. Les Hongrois savent très bien, de par leur histoire, que la Russie ne sera jamais l'ami de la liberté et de la souveraineté de petites nations.
Bah ça, il prévient Vincent Hervouette, notre ami Mike Pompeo.
Oui, l'amitié est un combat. Et puis, vous savez, Viktor Orban ne fait rien comme les autres. Il a applaudi à tout rompre l'élection de Donald Trump. Il l'aime, il l'admire. Le Hongrois était d'autant plus enthousiaste qu'il ne supportait plus les cours de morale d'Hillary Clinton, ni les cours d'instruction civique de Barack Obama. Et on s'imaginait donc que Mike Pompeo allait débarquer à Budapest en terrain conquis. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Le secrétaire d'État affichait la mine sévère. Il a délivré ses mises en garde avec le ton navré d'un commissaire européen qui viendrait constater la hauteur du grillage à la frontière hongroise.
Mais qu'est-ce qui l'inquiète vraiment en Hongrie?
Les Russes. Pompeo était comme le chien qui renifle la présence d'un chat en entrant dans une pièce. Vladimir Poutine est venu 2 fois à Budapest. Il a été accueilli comme un colonel du KGB dans un pays frère. Il avait apporté un cadeau, un prêt pour agrandir la centrale nucléaire du pays. Et Viktor Orban plaide pour la levée des sanctions européennes contre Moscou. Il est sûr que la Crimée est russe et pas forcément que le Donbass soit ukrainien. Mmh. Il a décrété l'ouverture à l'Est. Alors les Russes en profitent, les Chinois s'y engouffrent. La Hongrie est d'ailleurs la plateforme de Huawei pour la 5G en Europe. Et bref, Pompeo, hier, à Budapest, s'interrogeait. comme un jaloux. Est-ce qu'Orban est en orbite? Est-ce qu'Orban, c'est l'OTAN? Ou est-ce qu'il est en train de passer de l'autre côté? Puis on vient de l'entendre, donc il ne faut pas laisser Poutine creuser les divisions entre amis dans l'OTAN. Alors ce qu'on n'a pas entendu, c'est la réponse du ministre hongrois, son homologue, qui lui a sauté à la gorge. Il y en a marre que vous nous présentiez toujours comme étroitement lié à la Russie.
Et il lui a dit ça.
Oui, alors, c'est à ça qu'on reconnaît les amis. Ils se croient tout permis. Ouais. Le régime hongrois a deux sortes d'amis. Les États-Unis qui financent les ONG progressistes qui le détestent, et les Européens qui le mettent au piqué. À Budapest, quand même, les Américains sont en train de réaliser ce qu'il en coûte d'abandonner ses vieux alliés, parce que la géopolitique, c'est comme la nature, elle a horreur du vide.
Vincent Herouet, parce qu'il a horreur des inepties. Précision, analyse et distance, c'est tous les jours sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Je vous ai fait la totale, mais bon, c'est pas. Parce qu'à un moment, je peux parler de vous comme ça, c'est la vérité.
Quelle journée, ça commence
comme,
bien.
Comme lorsque j'accueille Audrey Crespo-Marin et qui arrive dans le studio et qui voilà, remplit toute sa lumière et son énergie.
Oh là là, mais quel accueil.
Non, je t'ai plus.
Bonjour, vous
accueillez qui dans quelques instants?
Eh bien, bonjour. Écoutez, on va lui poser un certain nombre de questions. La taxe carbone sacrifiée sur l'hôtel Gilet jaune pourrait-elle revenir? Et le diesel est-il polluant ou finalement plus tant que ça? En tout cas, plus de 2 millions de personnes ont déjà signé une pétition prévoyant d'attaquer l'État, donc le gouvernement, pour inaction climatique. Inaction. François Drugy, ministre de la Transition écologique, sera mon invité.
Juste après ça, à tout de suite. Bon réveil à tous.
Excellente matinée sur Europe 1. Il est 8h15. Il est 8h17. Nikos Aliagas.
Le ministre de la Transition écologique et solidaire, François Drugy, est votre invité. Audrey Crespo-Marin, bonjour.
Bonjour François Drugy.
Bonjour.
Ismaël Emelien, conseiller spécial du président, décide de démissionner après Sylvain Faure, la plume du président. Est-ce que c'est le sauve-qui-peut ou un tournant dans le quinquennat?
Bon, je crois que c'est qu'il y a des choses qui arrivent assez naturellement dans un mandat de 5 ans. Quand on est collaborateur d'un président de la République, on peut imaginer que c'est extrêmement prenant, extrêmement usant aussi, et donc on peut comprendre que certains conseillers n'aient pas envie de faire les 5 ans aux côtés du président.
Ismaël Emelien, dont le nom revient beaucoup dans l'affaire Benalla, ça a pu précipiter son départ?
Moi, je ne crois pas, et surtout, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas y voir quoi que ce soit de politique. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du personnel.
Et en tout cas, l'équipe de campagne 2017, qu'on dit moins efficace dans l'exercice du pouvoir que dans sa conquête, est en train de quitter l'Élysée. C'est une mue salvatrice qui s'opère, selon vous ?
Vous savez, le président de la République avait annoncé déjà l'année dernière qu'il y aurait des changements au sein de son organisation à l'Élysée et aussi parmi ses conseillers. On peut considérer que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais vous savez, vous dites que ce sont les personnes qui l'ont accompagné dans la campagne. C'est vrai pour certaines, pour d'autres. Le préfet Strauda, c'est quelqu'un qu'il a recruté comme directeur de cabinet après son élection. Par ailleurs, Alexis Kohler, c'est quelqu'un qui l'accompagne aussi quand il était ministre de l'économie. Enfin voilà, ce sont des personnes qui ont travaillé avec lui et d'autres qui sont venues travailler avec lui à l'Élysée.
François Drugy, en plein grand débat, plus de 2 millions de personnes ont signé une pétition prévoyant d'attaquer l'État, donc vous, le gouvernement, pour inaction climatique. Ça vous réjouit quand même de voir que les Français s'emparent de l'écologie, s'investissent dans l'écologie ?
Oui, j'ai trouvé que c'était positif que plus de 2 millions de personnes disent qu'il faut en faire plus pour le climat, il faut en faire plus pour lutter contre le dérèglement climatique, il faut aller peut-être plus vite, plus loin. Vous savez que c'est un débat régulièrement, certains politiques pensent au contraire qu'on va trop vite, pensent qu'on devrait ralentir le rythme. Je crois que c'est un point d'appui, les citoyens, on peut s'appuyer sur la mobilisation des citoyens en faveur de l'action pour le climat.
Alors en 2017, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse, ils dépassent de 7% l'objectif que la France est engagée à respecter. Pourquoi la France ne tient pas sa parole sur le climat?
Ce n'est pas une question de tenir ou pas sa parole. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui, dans la pétition, dans cette pétition pour le climat, est un peu ambigu parce que ceux qui l'ont initié donnent l'impression de s'adresser à l'État et disent c'est l'État ne baisse pas assez ses émissions de gaz à effet de serre. Mais ce n'est pas l'État, ce n'est pas les émissions de gaz à effet de serre de l'État, c'est les émissions de gaz à effet de serre du pays, de notre pays, la France. Bien sûr, c'est l'État qui impulse
les
politiques,
rôle, oui,
qui donne des directions, mais c'est notre affaire à tous. D'ailleurs, c'est le nom de l'une des associations qui porte cela. Et donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir en effet pourquoi notre mobilisation n'est pas encore assez forte pour atteindre les objectifs que nous nous sommes donnés et qui sont en ligne avec les accords notamment de Paris, de la COP21, la fameuse conférence mondiale sur le climat.
Mais plusieurs associations effectivement déposent un recours pour carence fautive de l'État. Donc
Oui, alors ça, je crois que c'est davantage un levier d'action médiatique, de mobilisation de citoyens. Et de ce point de vue-là, tant mieux. Cela s'inspire d'autres démarches qui ont existé dans d'autres pays, mais qui en général n'ont pas abouti pour une raison simple, c'est que ce n'est pas dans les tribunaux que l'on fera baisser les émissions de gaz à effet de serre. Si un tribunal condamnait l'État, et après, vous voyez bien que ce qui compte, c'est l'action que nous pouvons tous conduire. Bien sûr, c'est à l'État de prendre l'initiative, de prendre des législations, de prendre une fiscalité qui soit cohérente avec ses objectifs. Mais ensuite, c'est les citoyens, les entreprises, les collectivités locales, tout le monde qui, évidemment, doit baisser les gaz à effet de serre. Ce n'est pas une chose simple, mais moi, je crois que c'est tout à fait possible. Et le fait que les citoyens se mobilisent, c'est une bonne chose. Moi, j'ai proposé d'ailleurs de les rencontrer.
Oui.
Et les associations ont considéré que ce n'était pas nécessaire. Mais parmi les signataires, j'ai lancé un appel. Plus de 4000 personnes ont répondu, ont dit on serait d'accord pour vous rencontrer, pour avoir ce dialogue sur comment on pourrait faire mieux, plus efficacement.
Alors justement, en plein grand débat, Brune Poirson, votre secrétaire d'État à l'écologie, a déclaré que la taxe carbone est un outil en faveur de la transition écologique qui a un vrai impact. C'est pour quand le retour de la taxe carbone qui avait été à l'origine de la crise des Gilets jaunes ?
C'est vrai que cela a un vrai impact dans tous les pays qui l'ont fait, y compris la France. Vous savez que l'an dernier, par exemple, en 2018, la consommation de carburant a baissé en France. Et c'était la première fois après 3 ans de hausse. En même temps qu'il y a une hausse de la croissance économique, pour la première fois, on a quand même une baisse de la consommation de ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire l'essence, le diesel, le pétrole. Et donc ça, c'est un bon signe qui montre que c'est possible de baisser nos émissions de gaz à effet de serre tout en ayant une activité économique qui se développe.
Vous envisagez le retour de la taxe carbone ?
C'est sur la table. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est le moment ou jamais d'en débattre. Nous avons des débats partout en France. J'étais moi-même hier soir dans la Corrèze. En Corrèze, ça a été sur la table. On en a parlé. Est-ce qu'il faudrait reprendre ? Oui, non. Si on le fait, à quelles conditions ?
Pour les plus riches, c'est pas exclu ?
Vous savez, c'est difficile de moduler la taxe carbone en fonction des revenus, puisque c'est fondé sur la consommation de carburant, de pétrole, de fuel, de gaz. Mais ce que l'on peut dire, en revanche, c'est qu'est-ce que l'on ferait de cet argent récolté ? 3 centimes de taxe carbone sur l'essence et sur les carburants, c'est 2 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on ferait de ces 2 milliards d'euros ? Les Français nous ont dit, on ne peut plus continuer en ayant l'impression que ça va dans le budget général de l'État. Il faut que ce soit vraiment à 100% pour la transition écologique. Eh bien, si on est capable de dire cet argent irait à 100% la transition écologique, irait à des aides aux Français qui en ont le plus besoin, eh bien, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait, en effet, reprendre une trajectoire, peut-être plus modéré d'ailleurs aussi, mais peut-être qu'on pourrait reprendre cette trajectoire.
Et François de Rugy, le diesel, c'est polluant ou ça ne l'est plus ? Bruno Le Maire étudie la possibilité d'accorder le même label écologique aux véhicules diesel dernière génération qu'aux véhicules essence récents ou hybrides. C'est une bonne idée ou pas ?
C'est un vieux débat en France. Certains constructeurs de moteurs diesel disent « mais les derniers diesels, ils sont aussi propres que l'essence ». Le problème, c'est qu'ils émettent des particules très fines. On arrive à filtrer, mais plus c'est fin, moins on arrive à les filtrer. Or, plus les particules sont fines, plus elles passent dans les poumons, puis dans notre sang. Donc, elles sont fixées par le corps humain. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas envoyer des signaux contradictoires sur la question de la pollution de l'air. En revanche, il y a un vrai travail d'accompagnement de la filière diesel en France. Il y a des entreprises, notamment des sous-traitants de l'automobile qui ne faisaient que ça, et il faut absolument les accompagner pour qu'ils puissent se reconvertir, notamment vers les moteurs essence, les moteurs électriques, les moteurs hybrides.
François de Rugy, la semaine dernière, vous avez invité l'ancien député vert Denis Baupin à un dîner au ministère de l'écologie alors qu'il était en plein procès contre des femmes l'accusant de violences sexuelles. Était-ce une manière de lui apporter votre soutien ?
Non, pas du tout. Vous savez, je me suis exprimé très clairement quand cette affaire a éclaté en 2016. Et donc, je n'ai pas changé d'avis sur la question.
Mais vous parliez de rumeurs à l'époque.
Non. J'avais dit qu'on ne pouvait pas fonder des accusations sur des rumeurs, qu'il fallait qu'une enquête judiciaire soit faite, ce qui a été fait. Une enquête judiciaire très approfondie qui a considéré que certains faits étaient prescrits et que d'autres ne justifiaient pas, ceux qui n'étaient pas prescrits ne justifiaient pas une poursuite judiciaire plus approfondie.
Mais était-ce opportun de l'inviter en plein procès alors qu'il est accusé d'agression sexuelle ?
Je vais vous dire, je ne savais pas que ce procès allait avoir lieu.
Et si
moi, j'ai refusé, d'ailleurs, des deux côtés, on m'a demandé de témoigner dans ce procès, j'ai toujours refusé de le faire. Je considère que ce procès était très malvenu, d'ailleurs, c'était une très mauvaise idée et que donc je n'ai rien de plus à dire.
Et si vous l'aviez su, vous dites je ne savais pas que c'était le
oui,
procès.
Oui, évidemment que la concordance de calendrier était très malvenue aussi.
Merci François de Rugy. Donc, en tout cas, on peut retenir que la taxe carbone est sur la table. C'est en tout cas en débat. Ce serait possiblement envisagé, mais pas de l'appel écologique pour les voitures diesel. Merci à vous.
Vous venez d'entendre l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara sur Europe 1.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol. Et à 8h30, Céline Dacosta, l'essentiel de l'info. Avec cette question, pourquoi s'en prendre un arbre, à plusieurs arbres, plantés en l'honneur ou à la mémoire d'un jeune homme assassiné parce qu'il était juif? Pourquoi faire ça en 2019? Vous entendrez l'émotion du maire de Sainte-Geneviève-des-Bois dans quelques instants. Et puis le Paris Saint-Germain qui se prépare au choc ce soir face à Manchester United. En tout cas, les supporters sont chauds comme de la braise, on vous dit tout. Bonne matinée sur Europe 1. Merci de nous faire confiance.
Il est 8h25. À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Il y aura le point météo avec Laurent Cabrol dans quelques secondes. Il y aura David Abiker. Il est là, il est installé, il a tout lu, ou presque.
Bonjour Nikos, bonjour Céline. Bonjour. Ce matin, on va parler profanation, profanation antisémite, mais aussi profanation des églises de France. Il y en a eu 978 rien qu'en 2017.
Jamais vu.
Et ça augmente.
Il y aura aussi, pour rire, non pas de tout, mais rire avec ceux qu'on aime, c'est-à-dire nos auditeurs, Nicolas Canteloup et la revue de presse dans quelques instants.
Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La météo, c'est avec Laurent Cabron, Nikos.
Ça se partage, la météo? C'est la première question qu'on se pose quand sort de ou quand on s'habille, quand on sort de chez nous le matin.
Comment ça va? T'as vu, il fait froid. Oui, il fait froid.
Non, mais c'est la question essentielle. Ouais. Bah alors, aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on parle brouillard. Alors, justement, je suis un peu inquiet parce que, pas inquiet, le monde est un peu fort, mais il y a énormément de brouillard sur la France. Ces brouillards se sont levés un peu tardivement. Je ne les ai pas signalés, ni Céline, trop tôt le matin, parce que, ben, on n'arrive pas à les obtenir, mais avec des visibilités de 140 mètres, ils sont tous givrants, entre 140 et 200 mètres, à Saint-Dizier, Châlons-en-Champagne, Saint-Quentin, Nancy, à Auxerre, à Montauban, Rennes, dans le Cher, dans la région de Gourdon, enfin bref, à Auxerre même, et à Aubusson, et du côté d'Ambérieu. Bref, ce sont des brouillards qui ont du mal à se disperser, mais une fois qu'ils ont disparu, qu'ils se sont volatilisés, eh bien, nous aurons un temps beaucoup plus clément. Malheureusement, ça n'est pas encore le grand soleil. Le grand soleil, c'est pour demain. Comme il y a beaucoup d'humidité, il va falloir s'en débarrasser. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, avec un ciel voilé en général, avec quelques nuages sur l'Île-de-France, mais le soleil percera, comme en Lorraine, Alsace et en Champagne-Ardenne, et puis avec un temps très ensoleillé dans tout le sud-ouest, sur la Bourgogne, sur l'Île-de-France, sur la Bourgogne, l'Île-de-France, je l'ai déjà dit, ce sont des éclaircies,
oui.
Très ensoleillé en Franche-Comté, très ensoleillé sur le bassin méditerranéen, et des températures maximales entre 7 et 15 degrés.
On vous aime, Laurent Cabrol, merci beaucoup.
Et on vous retrouve juste avant 9h.
Il faut dire que vous aimez les gens.
7h, 9h, 2h d'info sur Europe 1.
Nous sommes le mardi 12 février, toute l'actualité à 8h30, Nikos Aliagas.
Les actes antisémites ont explosé l'an dernier en France, plus 75%, annonce du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner hier. C'était à Sainte-Geneviève-des-Bois où deux arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi avaient été sciés. Un acte qui choque énormément le maire de la ville, Frédéric Pépita.
Ma première réaction est du dégoût et puis sentiment de colère. Ces actes antisémites viennent attaquer une nouvelle fois Ilan et sa mémoire. J'appelle l'ensemble de la communauté nationale à venir nous rejoindre mercredi matin à 10h, à l'endroit même où on a découvert le corps d'Ilan. Et chaque acte antisémite est une attaque forte à la République.
Frédéric Pétita, le maire de Sainte-Geneviève-des-Bois, joint par Pierre Herbulot. Invité d'Europe 1 ce matin, la femme rabbin Delphine Horviller a dit rêver que samedi, les personnes qui manifestent portent des pancartes « pas en mon nom ». Autrement dit, cet antisémitisme-là, ça n'est pas notre haine. Et puis, drapeau tricolore et drapeau européen seront désormais obligatoires dans les salles de classe. Vote cette nuit à l'Assemblée dans le cadre de l'examen du projet de loi sur l'école de la confiance. Un fidèle d'Emmanuel Macron démissionne. Son conseiller spécial, Ismaël Emelien, qui s'apprête à publier un livre. Football, le Paris Saint-Germain sans Neymar, ni Cavani, qui joue ce soir sur le terrain de Manchester United, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Écoutez les supporters parisiens. Oh ouais, ils essaient de se rassurer. Ils ont raison. Allez, c'est parti.
Manchester, c'est pas non plus la meilleure équipe d'Angleterre, donc même s'ils sont en forme a priori actuellement, je pense que le PSG, il a 95% de chances de gagner.
Moi je pense qu'ils vont perdre. Je pense que Pogba, il va faire la différence.
Je pense qu'avec la blessure de Cavani et de Neymar, ça va être dur, mais après Mbappé, il peut faire la différence.
Manchester United, Paris Saint-Germain, à suivre en direct sur Europe 1, émission spéciale dès 20h.
Europe 1.
Et tout de suite, Nico Saliagas, on retrouve David Abicard pour sa revue de presse.
Et à la une ce matin, David, des arbres profanés, mais un jardin planté.
Un jardin planté à Menton, Nikos, à la mémoire d'Ilan Halimi par Cyrine, 17 ans, et Yasmine, 19 ans. C'est ce que nous explique Le Parisien ce matin, Le Parisien aujourd'hui en France. Les deux jeunes filles participent à la première édition nationale du prix qui porte le nom du jeune juif assassiné le 13 février 2006. Vilaine ironie, ajoute Le Quotidien, ce prix sera remis ce soir par le Premier ministre, alors qu'hier, on apprenait la profanation des arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi à Sainte-Geneviève-des-Bois, alors qu'hier, encore, on découvrait ces croix gammées dans le 13e arrondissement de Paris sur le portrait de Simone Veil décorant des boîtes aux lettres, et que samedi, la vitrine d'un restaurant parisien se trouvait souillée par l'inscription « Juden ». Et Yasmine évoque pour Le Parisien cette question qu'on lui a souvent posée. Mais pourquoi tu fais ce jardin? Tu es musulmane, pas juive? Et Yasmine a cette réponse. Je le fais justement pour lutter contre ce type de questions.
Un site, ce matin, pointe le contexte politique et social de ces actes antisémites.
Ce site, c'est Jupop. Vous ne connaissez pas, mais c'est un site d'analyse et de polémique qui pointe du doigt ce contexte et qui, disons-le, met les pieds dans le plat. On aurait aimé, dit-il, ne pas faire d'amalgame entre gilets jaunes et antisémitisme. Mais les tags et autres slogans complotistes et antisémites se propagent sans frein au sein et en marge des manifestations du mouvement. Et la multiplication des violences verbales conspirationnistes, racistes, homophobes et d'images antisémites qui les parcourent est édifiante. La souffrance sociale, aussi insupportable qu'elle puisse l'être, n'excuse rien, je ferme les guillemets. Reste à prouver que ces actes antisémites sont le fait des gilets jaunes. Bon courage.
Le Figaro revient, lui, sur la profanation de plusieurs églises ces derniers jours, David.
Le phénomène inquiète les pouvoirs publics, titre Le Quotidien, qui ajoute que la conférence épiscopale reste discrète pour éviter la surenchère. Sauf que la surenchère est là. 978 actes recensés en 2017, ce qui fait deux églises par jour vandalisées ou profanées. Restez discret quand vos lieux de culte ou de mémoire sont profanés, c'est difficile pour la communauté juive comme pour la communauté catholique, comme pour la communauté musulmane. Restez discret, ça s'appelle avoir peur. Alors il faut lire Le Figaro entre les lignes et tenter de comprendre le préfet des Yvelines, département où l'église de Houille a été prise pour cible par trois fois ces derniers jours. Dans un département aussi sensible, dit-il, il est important que le représentant de l'État s'exprime pour redire sa vigilance afin que tous les lieux de culte restent des lieux de paix. Je ferme les guillemets. On traduira ça par le fait qu'il faut ne pas allumer la mèche de tensions religieuses ou communautaires. Et si les évêques de France se refusent à crier au loup par prudence, Mgr Giroud à Montauban, lui aussi, met les pieds dans le plat. Il s'est inquiété du peu de réaction au plan national. Sur Twitter, Erwan Lemoredec, avocat et chroniqueur à l'hebdo catholique La Vie, a lui aussi cherché en vain une réaction gouvernementale à ces profanations et il s'étonne lui aussi que nos ministres soient plus prompts à réagir à certaines polémiques nées sur Internet qu'à ces profanations d'église.
À quoi pense-t-il Erwan Lemoredec à votre avis?
Eh bien peut-être à la ligue du LOL, la ligue de la rigolade sur Internet, je traduis pour ceux qui ne fréquentent pas les réseaux sociaux. Je vous raconte, au début des années 2000, une bande de jeunes journalistes ou de jeunes communicants organisés sur Facebook va prendre pour cible des blogueuses ou des journalistes, souvent des femmes, pour les moquer, les ridiculiser, puis les invectiver. De l'humour, disent-ils aujourd'hui, avant d'admettre ce qui est en réalité du cyberharcèlement. L'affaire en serait restée là si ces jeunes gens qui ont vieilli n'étaient pas journalistes ou consultants. Qui à Libération, qui aux Un Rock, qui Huffington Post, qui chez Publicis. Ce week-end, les victimes se sont mises à parler, les harceleurs à s'excuser, ce qui n'a pas empêché leur mise à pied ou leur licenciement. L'affaire interpelle au moins sur trois plans. Le cyberharcèlement a beau être virtuel, il inflige de vraies blessures aux adultes comme aux enfants. La violence sexiste prolifère sur Internet. Enfin, et c'est Libération qui le dit, cette affaire va provoquer une remise en question profonde et collective de l'entre-soi et du sexisme qui gangrène le milieu. Comprendre le milieu des médias, ça ne fera jamais qu'un procès de plus.
Et ça ne nous fait pas rire non plus ce matin. C'était la revue de presse de David Abicaire. Julie est dans la place, Nicolas Canteloup est prêt. Voici la revue de presse sur Europe 1.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Nikos, on commence avec vous. Le rappel du titre principal de l'actu, s'il vous plaît.
Nous sommes dans la place. Salut.
Salut à vous.
On démarre avec ce chiffre écœurant. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé. Une hausse, nous en avons parlé dans cette édition. Une hausse de 74% des actes antisémites. Même au gouvernement d'ailleurs, puisqu'on note le départ d'Israël Hemelien.
Et c'est, Ismaël.
Ah, c'est pas Israël.
Ah, non,
autant
non.
Pour moi. Autant pour moi. En tout cas, ce matin, nous avons reçu Delphine Orbiller,
oui.
Une femme rabbin. Oui, c'est comme une femme à barbe, mais en jolie et en intelligente. C'est pas antisémite comme blague, rassurez-moi. Hein. Bon. Et puis, petit rappel, Simone Veil repose pour l'éternité au Panthéon. Alors, je propose, moi, de notre côté, la création pour les antisémites d'un mouvement, le Panthécon.
Voilà. Ah, le Panthécon.
Voilà, un Panthécon, un mouvement où ils pourraient la fermer pour l'éternité. Et même, peut-être même un peu après encore.
D'accord, allez. Merci, Nico.
À toi, Julie.
Un mot de la Ligue du LOL. Bah, c'est comme ça que s'était baptisé le collectif de journalistes parisiens qui ont harcelé d'autres journalistes. Bonjour, Nicolas Barré.
Oui,
alors, vous vous êtes fait harceler, vous avez été victime de ce qu'ils ont reconnu comme du harcèlement en ligne, des canulars téléphoniques malveillants, tout ça?
Si vous saviez. Un jour, il y en a un qui m'a appelé en se faisant passer pour Hans Carten Glückenstrasspiel.
Qui ça?
Vous le connaissez?
Mais c'est qui?
Ben c'est le directeur adjoint du service comptabilité de la Bourse de Francfort. C'est un petit peu Mariana à moi, j'étais comme un gosse. J'y ai cru et il me dit que si je veux, je peux travailler avec eux. Mais il y avait une condition.
Ah.
Je devais manger une par une toutes les pages saumon du Figaro du jour. Et leur envoyer la vidéo.
Oh là là, mon pauvre Nicolas, vous l'avez pas fait quand même.
Bon, moi, ce n'était pas très grave parce que j'aime bien le saumon. Ça, c'est pas la question, mais 12 pages.
Oh bah oui.
Je me suis fait une occlusion intestinale en papier mâché.
Aïe, 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 aïe.
Oh, j'ai failli crever.
Salons. Oh, on est de tout cœur avec vous, Nicolas. Allez, à bientôt sur l'antenne.
À bientôt.
Les observateurs l'ont remarqué, Laurent Wauquiez ne porte plus sa célèbre parka rouge. Bonjour Laurent Wauquiez.
Oui, bonjour madame. Et bonjour les autres.
Bonjour.
Oui, bon les autres.
Alors,
l'histoire de cette parka est toute bête. Hein. Lorsque vous étiez un jeune homme politique, vous aviez remarqué qu'avec une parka rouge, on vous remarquait mieux.
C'est vrai. Mmh. On me remarquait mieux. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, madame Julie, je vous fais une confidence, j'ai acquis de l'expérience. Et puis j'ai fini par comprendre que pour me faire remarquer, je n'avais pas besoin de parka rouge. Il suffisait simplement que je dise n'importe quoi, comme des propos homophobes, ou même des propos racistes. Ou que je mente en disant que je n'avais jamais porté un gilet jaune alors que si.
Bah, c'est vrai, voilà. Vous avez dit tout ça, hein, monsieur Wauquiez.
Oui, et je me faisais remarquer tout autant. Comme quoi, l'expérience et la maturité, monsieur Allega, c'est important.
Oui.
Et tenez là, par exemple, sur votre antenne, je dis « dehors les étrangers, surtout homo étrangers
oh ».
Et voilà, plus besoin de parka rouge,
mon
pauvre,
faire
remarquer.
Qu'est-ce qui vous prend?
Quelle démonstration. Allez, on vous laisse, Laurent Wauquiez. Et on reçoit maintenant Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy.
Et bonjour à tous. Et merci, bien sûr, de m'accueillir à vous.
Alors, on va parler de la mise en examen de votre ami Thierry Soler. Hein
bon, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous parler. Je crois qu'on a bien échangé, on a bien papoté. C'est toujours plaisant d'échanger avec vous. Allez, je file, je dois acheter un cadeau pour l'anniversaire d'Axel de Tarlé. J'hésite entre une calculatrice, un peigne ou une chemise repassée.
Attendez, ne partez pas, on n'a encore rien dit, monsieur Sarkozy.
Ça vous plaît, la chemise repassée, hein? Madame Dacosta, alors je vais faire la chemise repassée.
Non, écoutez, partez pas. Hein. Les avocats de Thierry Soler parlent de harcèlement judiciaire et portent plainte contre les magistrats.
Toujours
pour
impeccable,
faux.
Ce Axel de Tarlé.
Pardon, oui. Faux et usage de faux, monsieur Sarkozy. Faites pas semblant de ne pas écouter.
Non, bien sûr, j'ai entendu vos insinuations sur Thierry Soler. Écoutez, là, franchement, on a quoi? On assiste à quoi? À deux parties qui s'opposent. D'un côté, le système judiciaire, hein, et de l'autre côté, le système solaire. Voilà.
Voilà.
Mais écoutez, vous pouvez applaudir. Oui. 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 Écoutez, c'était mon analyse astronomique. Hein. La seule analyse astronomique, monsieur Allega, qui vole pas haut. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Je vais vous faire un cadeau. Je vous la facture pas. Je vous facture pas.
Gratos.
Allez, je file.
Attendez. D'après vous, Thierry Soler est coupable ou pas? C'est ça qu'on veut savoir.
Non mais franchement, quelle indignité, Marc. Je vois bien que vous essayez de m'énerver et que vous espérez que par énervation de ma part, je finisse par craquer. Mais ça ne marchera pas. Et je le prends à témoin, M. Apathy, M. Abicca, M. Cabrol et Mamba Costa. Je vous le dis, il faut laisser faire la justice. Et la justice, Mme Bouchard le sait, oui, c'est long. Ah, alors oui, que la vie, c'est court.
Oh là là, il y avait longtemps, là. Allez, allez.
Il n'y a pas de « allez ». Vous savez, la vie, c'est pas les affaires. La vie, c'est pas les procès. La vie, c'est pas tirer sonnette. La vie, ça passe si vite, Mme Julie. La vie, ça passe aussi vite qu'un timbre poste. Et encore, Mme Bouchard le sait, un tout petit. La vie, vous savez quoi? Ça fond comme du beurre. Du beurre au soleil. Et encore un petit.
Hein, quoi?
Non, mais pas un petit beurre.
Un petit beurre.
Pas un petit beurre. Le gâteau, ça ça fond pas. C'est un biscuit, c'est sec. Hein. Non, quand je parle d'un petit, comme un petit président. Hein,
ah oui.
Non. Oui, non, mais pas moi, Cabrol, le petit président, je parle du beurre.
Le
beurre tout petit,
compris,
vous
là,
savez,
oui,
le beurre tout petit en petit rectangle qu'on vous donne, un petit parallélépipède tout petit, oui, qu'on vous donne dans les cafés, dans un petit emballage de beurre président. Qu'on, monsieur Lagasse-Losé, qu'on n'arrive pas à ouvrir tellement qu'il est petit,
il
tellement
est
qu'il est froid,
et
que le papier il colle sur le beurre, et que cette portion-là suffit même pas pour deux tartines, alors que ça nous énerve, parce qu'il faut qu'on en ouvre un deuxième pour la deuxième tartine, alors qu'on a ouvrir un deuxième alors qu'on n'a qu'une vie.
Oh, c'était magnifique. Merci, monsieur Sarkozy. Magnifique. Dans un livre intitulé « Les recettes préférées de Johnny », on apprend que le chanteur était fan de pommes de terre, de museau vinaigrette, mais qu'il n'était pas trop dessert à part le baba au rhum. Bonjour Laetitia.
Oh, oui. Bonjour la fille. Bonjour. Si vrai, maman n'était pas trop dessert, sauf le baba au rhum, tu l'as dit. Mais je vais te faire une confidence,
oui,
parce que tu es ma meilleure amie. Dans le baba au rhum, ce que Johnny aimait bien, c'était pas le baba.
Oui, bah, on s'en serait douté, hein, Laetitia.
Oui, tu vois, il aimait pas les gâteaux, mais s'il y avait eu, je ne sais pas moi, un éclair au whisky, une religieuse au Ricard, une Charlotte au gin tonic, ou même une île flottante dans 5 litres de schnapps, eh bien, Johnny, maman, il aurait adoré les desserts.
En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce livre, Laetitia? Là, c'est son ancienne cuisinière, hein, Jacqueline Benoît, qui sort ses recettes préférées de Johnny.
Mais pour une ancienne cuisinière, c'est normal qu'elle fasse de l'oseille au navet.
Oh, oh là 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 là, bien. C'est un festival ce matin.
L'humour.
Allez, merci Laetitia, à bientôt. On a beaucoup parlé ce matin du choc de ce soir, hein, le PSG Manchester en Ligue des Champions. On est en ligne avec Kylian Mbappé. Bonjour Kylian.
Oui, bonsoir moi Julie.
À Neymar, qui y a d'autres? Cavani, Meunier, il y a beaucoup de blessés, hein, dans votre équipe. Vous restez confiant?
Oh, bien sûr, je pense qu'on peut créer l'exploit, même si c'est vrai que les joueurs sont fatigués.
Après le match contre Bordeaux de samedi?
Non, non, à cause de notre chauffeur de bus.
Pourquoi?
Bah, il s'est blessé au poignet, hein, il ne peut plus tenir son volant. Et du coup, pour l'entraînement, on a dû aller de l'hôtel au stade à pied.
Ah,
attendez, pardonnez-moi, parce que je suis en train de faire cramer mes crêpes. Mais ils se brouillaient, pardon, si je les surveille pas.
Vous se brouillez, pourquoi vous faites des se brouillés là?
Ben, le cuisinier de l'équipe de France s'est blessé, il s'est brûlé en faisant des gaufres. Alors je le remplace.
Ah bon, d'accord. Bah écoutez, bonne chance, hein, Kylian.
Mais c'est gentil, merci Julie.
Qu'est-ce qui se passe là? C'est
oui,
quoi,
alors ça,
ça
c'est notre entraîneur Thomas Tuchel qui vient de se blesser. Il est tombé d'un escabeau sur Verratti. Alors bon, c'est sûr que le bruitage de l'escabeau par votre hygiène n'était pas top. Hein, on était plus sur. Oui. Hein, et ça, on peut pas exiger de tout le monde avant le niveau du PSG. Hein. Bon, bref, Verratti vient de se re-blesser. Faudra que je précise quand même les types de chutes, ouais, parce qu'il y a plein de chutes. Et vous avez qu'une chute. Et 1000 mètres, mais là, c'est pas crédible.
Non, mais je sais pas si ça existe, un bruitage d'escabeau, en fait. Ils l'ont pas du tout.
Bon, Rire et Chanson, il avait, je crois.
Oh, oh, ça y est, d'accord. Non, 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 non. Allez, pour terminer, on va parler de l'Algérie avec Abdelaziz Bouteflika, qui est officiellement candidat à un cinquième mandat. On est en ligne avec lui. Bonjour, monsieur Bouteflika.
Ça va, Mme Jalé. Bonjour, Mme Jalé. C'est midi. Manger la purée. La
purée. Parfait. Alors, on va commencer avec votre programme économique. Hein. Qu'est-ce que vous imaginez pour relancer la croissance algérienne?
Manger Julie, c'est bien. Je mange le...
On va la purée. Là. Oui, la purée.
Quoi? Allô.
Oh là là. Votre dentier dans la purée. Oh là là. Bon. D'accord. Mais alors vos opposants, qu'est-ce que vous avez à leur dire?
Oh non, mais c'est pas vrai, Mame Julie. Non mais. Ah bah, Christiane. Oh, mais c'est fini, Mame Julie, de jouer comme ça avec Monsieur Bouteflika. Il est fatigué. Vous savez, quand on est décédé, c'est épuisant de rester vivant pour l'organisme. Oh, c'est une lutte permanente.
Mais Christiane, vous qui êtes son infirmière, dites-nous, mais il est vraiment en état de diriger l'Algérie?
Mais oui, arrêtez avec ces questions sottes là. Bien sûr qu'il est en état. Il est dans le même état qu'il y a 10 ans. Et si on le met dans un mélange de Formol et de Red Bull, mais il peut tenir encore 100 ans, même de 100 ans. Et s'il a des soucis de santé, tout est prévu. Vous savez, on a rapatrié sa statue de cire du musée Grévin pour qu'elle prenne sa place.
Sa statue de cire?
Oui, oh, vous savez, elle est plus dynamique que lui. Ça. Ça va lui donner un bon coup de fouet au pouvoir algérien. Allez, bon, pardonnez-moi. Hein. Monsieur Bouteflika, s'il vous plaît, vous allez dormir un peu. Il hein, faut que vous soyez en forme pour votre sieste.
Bravo,
c'était Nicolas Canteloup et Julie pour ce jeu. C'est parce que c'est un jeu de comédienne, ce que vous faites depuis toutes ces années. C'est un échange. On en oublie presque les originaux. Grâce à Canteloup, on voit la vie différemment. Merci pour la revue de presque. À demain. Wendy Bouchard, le tour de la question.
Bonjour à tous, les
9h,
amis.
10h, deux questions, deux débats.
Dès le premier débat, après que son portrait ait fait la une hier du Parisien, Pauline, 27 ans, amputée après avoir été fauchée par un automobiliste de 92 ans. Le débat est donc relancé aujourd'hui sur le permis conduire à vie. Faut-il instaurer un âge limite pour conduire? On vous a posé la question sur Facebook, vous avez été très nombreux à nous répondre.
Quoi, les gens?
Oui, 70% d'entre eux, comme en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie. On va faire un petit peu le tour de l'Europe sur le sujet. Et puis à partir de 10h, une immersion que je vous propose à la crèche. On a toujours rêvé, pour les parents qui ont mis les enfants à la crèche, d'être une petite souris pour voir comment nos enfants se sociabilisent, comment ils échangent, comment ils apprennent la possession, la propriété et à donner aussi, à partager. Eh bien, un sociologue a passé un an avec des petits à la crèche, il nous en dira davantage. Là, pour le coup, si vous êtes parents, grands-parents, n'hésitez pas à réagir. 39-21.
Ça me parle, d'autant que quand tu essaies de le voir, il pleure, donc il faut pas y aller.
Oui, exactement.
Merci Wendy Bouchard. Le tour de la question, à partir de 9h.
Il est 8h53. Il est 8h55. À suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Seliagues. Mais tout de suite, Rénoval vous présente la météo. Profitez d'un temps toujours clément avec Rénoval, véranda et abri de piscine. La
sera-t-il
météo...
clément alors ce temps?
On va demander à Laurent Cabrol.
Aujourd'hui, oui. Et demain, encore plus. Alors demain, on pourra dire que ce sera le grand soleil. Ça n'est pas encore le grand soleil. C'est un peu la froidure. Ce matin, nous avions des températures de moins 3 à plus 3 degrés. Donc il fait froid.
Et
le
brouillard.
Soleil n'est pas encore gras. Là, et les brouillards sont très nombreux, y compris à l'heure où nous parlons. Donc les brouillards vont se disperser lentement. Et petit à petit, le grand soleil va s'installer. Comme l'anticyclone qui arrive est un anticyclone plutôt sec, il n'apportera par définition pas beaucoup d'humidité. Et les jours à venir s'annoncent donc super clément, super agréable, avec des brouillards qui se disperseront très vite. Et on peut imaginer une semaine vraiment très très sympathique pour ceux qui sont en vacances notamment. Les températures maximales aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui quand même, patientez un peu, vous aurez quand même des passages nuageux notamment sur Paris, mais il n'y a pas de pluie sur aucune région de France, pas de pluie. 6 degrés à Toulouse, non à Toul pardon, Toul à côté de Nancy, 7 à Colmar, 8 à Mâcon, 9 à Lille aujourd'hui, 9 à Lyon et Paris, 11 à Caen, 12 à Toulouse, 13 à Bordeaux, 15 à Marseille et 16 en Corse.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure, vous êtes avec nous jusqu'à 10h.
Nous sommes le mardi 12 février, on revient sur les moments forts de cette matinale, Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. À la une de l'actualité, ces images qui inquiètent des vitrines Bagelstein taguées, le portrait de Simone Veil lacéré de croix gammée, des arbres plantés en la mémoire d'Ilan Halimi, sciés en deux, et ce chiffre glaçant, les actes antisémites qui bondissent en France. En 2018, 74% d'augmentation de ces actes, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur hier soir. Écoutez la réaction ce matin dans la matinale de Delphine Horviller. Elle est femme, elle est rabbin, spécialiste de l'antisémitisme. Elle était mon invitée à 7h45.
On s'en prend à l'image de Simone Veil, on s'en prend à l'arbre d'Ilan Halimi, on s'en prend aux morts. C'est bien la démonstration que ça n'a rien à voir avec ce que les juifs feraient ou font ou ont. cela a à voir avec ce qu'ils sont, ou plus exactement ce qu'ils représentent dans l'esprit antisémite. C'est pas le problème des juifs, mais l'antisémitisme, c'est vraiment le problème d'une nation, le problème bien entendu des antisémites, mais aussi de tous ceux qui les tolèrent, ou finalement qui ferment les yeux. C'est une problématique nationale qui nous concerne tous, parce que quand on parle des juifs, on parle en réalité de l'humanité.
Et puis cette dernière information, se souvient de l'intrusion au ministère de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, en marge d'une manifestation de gilets jaunes le 5 janvier dernier. Eh bien, quatre personnes ont été interpellées, dont le conducteur de l'engin qui avait forcé les portes du ministère. Tous viennent des mouvements d'ultra-gauche. Arrestation en région parisienne et dans le Nord, selon le service police-justice d'Europe 1. Et puis c'est le grand soir pour le Paris Saint-Germain qui affronte à 21h le légendaire Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions, un choc très attendu. Alors, le Paris Saint-Germain peut-il réaliser l'exploit? Je posais la question à notre tout nouveau consultant foot, Alain Roche. C'était à 7h20 dans Europe 1 va plus loin.
Il y a quelques atouts offensifs en moins, que ce soit Neymar ou Cavani. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce sont une qualification, ce sont deux matchs. Un match aller à Manchester, un match retour au Parc des Princes. Ouais. Donc absolument limiter la casse, être bon. On a une équipe qui est solide. Il ne faut pas non plus se faire une montagne de Manchester. Le PSG a vraiment des armes pour la gêner.
Donnez-nous un pronostic pour finir, Alain Roche.
Je dirais match nul.
Et au retour?
Mais il faut s'imposer. Là, si on veut se qualifier, il faut gagner. En espérant que certains joueurs qui sont absents puissent revenir.
Émission spéciale dès 20h sur Europe 1. Match à partir de 21h. Consultants, spécialistes, ils seront tous là pour vous accompagner pour vivre ce moment fort pour le football français et européen. Voilà pour l'essentiel de la matinale. Voilà ce qu'il ne fallait pas rater. Merci de votre confiance. Merci de nous consacrer votre réveil, le départ au boulot. On vous accompagne dans votre quotidien, on est là à côté de vous dans la voiture, peut-être dans vos oreillettes, tout simplement au pied du lit. Bref, on continue tous les matins, 7h, 9h, c'est la matinale avec Céline Dacosta.
Et merci à vous Nikos.
Et nos journalistes et nos équipes techniques. Tout de suite Wendy Bouchard avec Julie pour le tour de la question. Ça commence dans quelques secondes. Bonne journée à
avec
tous.
Avec plaisir, on vous attend à demain Nikos.
Prenez soin de vous.